dans le tempo, c'est déjà l'épisode 65. Et c'est parti. Daz, tu sais que c'est l'une des rares fois où j'ai raté mon introduction.
Oui.
Ça arrive de temps en temps. Oui. Un épisode sur 8, je dirais, un truc comme ça.
Le truc à retenir, c'est que du coup, ces introductions pour toi sont réussies. Et ça, c'est incroyable.
Bah ouais, globalement, non, ça
d'accord.
Okay.
C'est super.
Ok, ça clash comme ça direct, tu veux qu'on aille là-dedans.
C'est toi qui a commencé à m'envoyer Snoop avec des maillots de l'OL cet après-midi, là. Je dis, ok.
C'est vrai.
Ok, il veut partir sur du fight.
Non, je te disais, Lyon, capitale du funk. Enfin, de la funk.
De la funk.
Snoop en maillot de l'OL.
Ouais. J'ai contre-attaqué avec un Snoop en maillot du PSG, mais.
C'est vrai. Non, en vrai, Snoop se vend très facilement. Il a toute une collection
ouais,
de maillots.
Il a des maillots du Barça aussi.
Je sais pas si t'as déjà vu ça, Ludo.
J'ai vu ça dernièrement sur Insta, il y a 2-3 jours, je crois, avec le, tu passes tous les feeds et tous les maillots de Snoop.
Absolument. Eh bien, vous l'avez entendu, nous sommes avec Ludovic Louis. Merci beaucoup, Ludo, d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Trompettiste de talent avec une carrière extrêmement riche. On va parler de toute cette expérience que tu as. Je rappelle quand même avant que vous êtes bien dans DLT. DLT, c'est le podcast des passionnés de musique. On se retrouve un mercredi sur deux. C'est la nouvelle formule que j'ai trouvée, Daz, plutôt que dire tous les 15 jours et tout. Comme c'est à chaque fois le mercredi, un mercredi sur deux, on est là, Daz.
Ok. T'as pas peur du coup de lancer une malédiction, genre?
Et qu'on n'arrive pas à le sortir le mercredi ou un truc comme ça? Non, on va s'astreindre à cette discipline. Ludo, il faut que je te présente un peu.
Ouais.
Tu es trompettiste, donc je le disais, tu mènes à la fois une carrière en tant qu'artiste solo et en tant qu'accompagnateur. Mm-hmm. Alors, initialement, formation de jazz, tu viens du Havre.
Ouais.
Tu te lances professionnellement au début des années 2000 à peu près.
Exactement.
Tu collabores assez rapidement avec des gens de la pop, en particulier Florent Pagny.
Exact.
C'est de la pop, Florent Pagny encore?
Ouais, je pense. En tout cas, c'est la musique populaire. Pas française, de la variété si tu veux.
Parce que là maintenant il est un petit peu genre Adagio, Manon Tropo là.
Il a toujours été inspiré par le côté musique classique, opéra, etc.
Ouais,
mais ça reste de la musique pop quoi, non?
Ok. Moi je mets ça
dans la pop française.
Ok. Moi aussi alors.
J'ai même vu qu'assez rapidement, je sais pas, mais en tout cas que tu te retrouves à collaborer avec Jimmy Cliff.
Ouais, c'est le premier artiste avec lequel j'ai travaillé, premier gros artiste avec lequel j'ai travaillé.
Incroyable, tu
2000, faisais 2004, ouais, j'ai bossé avec lui. Je me suis retrouvé là-dessus par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Alan Hoist, saxophoniste américain qui réside en France depuis des années, très très grand saxophoniste qui joue avec pas mal de monde. Il m'appelle, il me dit voilà, ce serait pour bosser avec un artiste, est-ce que tu serais dispo telle date? Ok, d'accord. Et là, j'arrive, on répète, Studio Bleu à Paris. Et là, c'est Jimmy Cliff, quoi. Et là, je fais, I can't see clear. Donc, tu vois, arriver la légende du reggae. Et là, je fais, d'accord. Et là, c'est parti. On a fait plusieurs dates avec lui. Super.
Ouais, c'était dans le cadre d'une tournée, du coup?
Ouais, en fait, il y avait des dates séparées. On a joué ensemble à La Réunion, on a joué à Monte Carlo, on a fait quelques dates, je crois, en Suisse. Il y a eu plusieurs dates en France aussi. Et forcément, t'arrives, tu te retrouves en tant que premier gros artiste à accompagner, qui est quand même une des légendes de la musique jamaïcaine, du reggae, musique mondiale. Ça met déjà un peu la pression. Mais lui, il nous a mis à l'aise, super gentil, adorable. Bien sûr, tu joues tous les tubes que t'as entendu auparavant, donc c'est encore plus. J'étais dans un état d'esprit, j'étais en kiff quoi. Tu te dis ouais, c'est super, hein. Je me retrouve à jouer avec Jimmy Cliff. Tous ces tubes, on les connaît tous, mais et ça fait quelque chose de se retrouver avec quelqu'un quand même de ce calibre-là et pour un premier artiste.
Ouais, c'est pas mal quand même.
Content.
Tu vois, Jimmy Cliff, ok.
Ouais.
Florent Pagny, bon.
Jimmy Cliff, d'accord. J'adore Florent.
Non, mais tu sais quoi? Et Ludo, de toute façon, il est dans la diversité, puisque derrière, il collabora avec des gens comme Slimane, comme Christophe Maé. Mmh. Et puis, il y aura une rencontre majeure quand même pour toi, qui va t'ouvrir ensuite à l'international, qui est celle de Lenny Kravitz.
Ouais.
On est quoi? On est en 2009. Vous vous croisez, et puis, en fait, vous vous quittez pas pendant 10 ans. Tu vas l'accompagner sur scène, sur des albums, même si je dis pas de bêtises.
Ouais. pendant 10 ans de collab. On a, je l'ai rencontré lors du Peace One Day en 2009 au Grand Rex. Il y avait un concert, il y avait plusieurs artistes et lui en faisait partie. Un de mes amis qui l'accompagne à l'époque, Mathieu Tav, qui est saxophoniste, m'a appelé, m'a dit voilà, faut que tu viennes à cette adresse ce soir. Et je dis mais je suis, non, mais tu
viens,
t'as trompé, viens.
On a besoin que
tu
sois là.
Et là, t'arrives et c'est chez Lenny Kravitz. Et bon, tu te retrouves à répéter des titres pour le lendemain. Donc voilà, c'est après ça a été. Il m'a recontacté quand l'année d'après, quand il préparait la première partie. En fait, special guest sur une tournée de U2, la tournée 360. Donc pour commencer à travailler avec lui et après depuis je l'ai accompagné, que ce soit dans ses tournées, sur ses albums, ouais. Pour plein de trucs et voilà, c'était 10 ans de collab pour moi qui ont été incroyables et exceptionnels.
Vous allez ensemble tourner dans le monde entier. J'ai vu Rock in Rio, Lollapalooza, le Montreux Jazz Festival. Je sais pas si c'était avec Lenny Kravitz à Montreux.
Ouais, on a joué dans la belle salle de Montreux. Voilà, tu vois, ce que j'ai trouvé aussi d'incroyable, c'est qu'il m'a permis de jouer dans des lieux incroyables. Tu vois, moi, ma première grosse scène avec lui, je me retrouve au stade des Seahawks à Seattle, devant plus de 100 000 personnes.
Ouais, d'accord.
T'étais comment juste avant?
En fait, c'est un peu l'insouciance, tu vois. Ouais, c'est cool, je joue avec lui, super stade. Bah, forcément, tu regardes un peu à droite, à gauche ce qui se passe. T'es impressionné, mais tout en sachant ce que je devais faire à ce moment-là sur scène et voilà, donc j'ai fait ce truc-là. Je me suis retrouvé donc à jouer aussi donc tu as cité Montreux Jazz, une des salles mythiques où tous les plus grands se sont produits.
Voilà, Stravinsky, la salle Stravinsky.
Ouais, exactement, tout en bois, tu vois. Et cette salle, la veille au soir, on avait été voir jouer c'était Toto, il me semble, qui jouait la veille au soir avec les amis musiciens du groupe. Et ce qui est marrant de cette salle, c'est que le sol, en fait, le sol bouge un peu suivant les vibrations du public. Et donc, c'était juste exceptionnel. J'ai eu la chance de jouer à l'Olympia aussi avec lui. Des salles mythiques. Bien sûr, Bercy Arena. C'est des moments incroyables. Les plus gros festivals au monde. J'ai fait le tour de la planète avec lui.
Il est à la retraite ou c'est quoi le...
Non, il est encore là. Bien sûr qu'il est encore là. Il est bien là, Lenny. Il est bien là.
Et tu continues à l'accompagner du coup ?
Non, moi j'ai arrêté en 2009.
Ah ouais, donc.
En 2019, pardon.
Ah oui, d'accord.
Ouais, j'ai pas.
On se rend compte qu'on arrête tout de suite.
Un concert. Enfin. Non, j'ai arrêté en 2019. Parce qu'en fait, je suis tombé. On m'a pris pour jouer dans une série sur Netflix qui s'appelle The Eddie, qui a été dirigée entre autres par Damien Chazelle, mais il y a aussi lui qui a dirigé. Il y a Ouda Benamina, Alan Poole et Laila Marakchi. Entre autres, en rôle principaux, il y avait Tahar Rahim, Leila Bekti, André Hollande, bref.
Dans le milieu du jazz, cette série
se
passe. Exactement. Paris, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Oui, ça a été tourné à Paris. Une série de 8 épisodes que vous pouvez toujours trouver sur Netflix.
Je vais même aller regarder ça, moi, dis
donc. Et donc voilà, donc j'ai quitté Lenny en 2019 pour ça. Mais par contre, voilà, j'ai eu la chance de faire des scènes incroyables, des moments de vie juste incroyables. Et c'est vraiment 10 belles années de ma vie.
Tu profites de cette nouvelle opportunité pour t'installer aux États-Unis et pour t'installer dans le circuit musical aussi américain. Mm-hmm. Alors j'ai vu, il y a plein de noms très impressionnants, à la fois dans la pop, je vois du Shawn Mendes, du Robin Thicke, mais aussi dans la soul, je vois Curtis Harding.
Ouais.
Alors un truc qui m'a très impressionné, j'ai vu The Meters.
Qu'est-ce
que tu as fait avec The Meters ?
The Meters, en fait, pareil, connexion. Je trouve que les rencontres sont très importantes dans ce métier. Ouais. Un de mes amis qui était saxophoniste avec moi sur l'émission Danse avec les Stars version US. Mm-hmm. M'appelle, il me dit voilà, j'ai un.
Parce que tu étais musicien pour cette émission.
Oui, je joue dans l'émission, dans le house band de l'émission. Ça fait depuis 2016. Je fais partie du house band de l'émission Danse avec les Stars aux US et qui s'appelle donc le Red Shoe Live. De Red Shoe, le nom du directeur musical. Et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai un truc qui va arriver. C'est un gros truc. Je peux pas te dire ce que c'est. Est-ce que voilà, il me donne des dates. Est-ce que t'es disponible? Moi, je dis ouais, bien sûr. Et je crois que la veille, il me prévient, il me dit voilà, c'est pour jouer avec les Meters gros festival à Pasadena. Et là, je dis les Meters, mais les Meters, il me dit ouais, les Meters. Et là, on se retrouve en répétition la veille du concert avec toute l'équipe, quoi. Et donc voilà, je m'installe et là je vois tout, toutes ces légendes qui arrivent. Et là, on commence à jouer les classiques. Et là, c'est juste, wow, où est-ce que je suis, quoi? Et ouais, ça a été une super, super expérience, comme aussi celle avec Curtis Harding, qui est un ami de longue date. J'ai eu la chance de collaborer avec lui sur son dernier album. On a co-écrit un titre ensemble. Donc, c'est des super moments et j'ai la chance dans ce métier de rencontrer des super artistes et des super personnes.
Je vois Patrice Rochon aussi.
Patrice Rochon, ouais. Pouah, ouais.
Pouah, aïe.
Et ben, petite anecdote que je n'ai jamais trop racontée. Patrice Rochon, c'est la personne qui m'a donné envie d'aller habiter aux États-Unis.
Ah ouais.
Au détour d'une conversation, je lui dis voilà, j'aimerais. J'ai envie de tester, voir est-ce que c'est possible les États-Unis ou pas. Elle m'a dit, écoute, tu viens et tu verras par toi-même. Je te conseille de le faire. Et voilà, si je suis parti habiter aux États-Unis, c'est en partie grâce à elle.
Grâce à Patrice Rochon, ça va. Niveau conseil, c'est cool.
Et j'ai la chance de jouer avec elle aussi sur des dates. Donc,
moi, Patrice Rochon, je me bute. Hein.
Bah, de toute façon, là, je vais mettre son grand tube, son grand classique, mais la ligne de basse est tellement folle.
Ah,
pour ceux qui
Freddy
ne connaissent
Washington.
Pas. Forget Me Not.
Ouais.
Ah, mais c'est pas Will Smith! Ah, moi, je suis vachement content de voir que cette artiste-là, en fait, là maintenant, on arrive au moment où elle est reprise à fond.
Ouais.
Et là, elle est énormément samplée dans le rap californien, justement. Ouais. Et c'est un kiff parce que du coup, je me retape aussi les albums et.
Rap là, gospel, hein. Kirk Franklin l'a reprise sur Adventure Heard. Mm. Il a fait une reprise gospel tuerie, quoi. Et je sais, entre guillemets, qu'elle vient. Elle est censée venir jouer en
Paris,
France.
Elle a un concert
elle vient au New Morning cet été. Allez, donc si vous n'avez pas pris vos places, vous savez, prenez-les s'il en reste encore.
Bon, je pourrais en citer d'autres, dont un, faudra qu'on s'arrête quand même un tout petit peu sur cette aventure, ouais, qui est Kanye West.
Ouais.
Mais c'est pas que ça, Ludovic Louis, parce que déjà tu vois, c'est plutôt impressionnant le CV jusque là.
Ouais, quand même, ça va, hein,
pas mal.
Ouais. On a commencé avec Florent Pagny, je te dis. Ouais. Ouais, bon, OK.
Alors je vais te couper et je vais en parlant d'anecdote.
Il a de l'amour pour Florent,
je sais.
Une anecdote encore avec Florent Pagny. Quand j'ai reçu le coup de téléphone pour Lenny Kravitz, j'étais en tournée avec Florent Pagny sur la grosse tournée en 2010. Donc c'était pour repartir après la date du Peace One Day. J'ai appelé Florent et Florent m'a dit « Fonce, n'hésite surtout pas, fais-le, c'est une opportunité pour toi, on est à fond derrière toi, vas-y. » Et grand monsieur.
Mmh. Ah mais ok. Bah non, mais ça fait
tu
plaisir.
L'aimes bien maintenant, Florent Pagny?
Bah oui, moi j'aime bien, il est rigolo.
Non, après on n'est pas obligé d'aimer sa musique, ça c'est des...
Non, goûts, non, mais moi, je trouve que musicalement le mec est incroyable. Mmh. Justement. C'est autour que c'est un peu chelou des fois.
Est-ce que je te laisse t'enfoncer, il y a
combien? Non. Après, tu sais, moi, il y a les vax, il y a les anti-vax, il y a les pro-vax, il y a les...
Ah, ouais. Sur ces sujets. Ah. Ouais, bah, tu vois, on vient de citer Kanye West, il y en a d'autres qui ont encore plus de problèmes.
Bah oui,
mais bon,
bah oui.
On y reviendra. Oui, non, tu disais, t'as cité la série The Eddie qui est disponible sur Netflix, où tu jouais donc le rôle d'un trompettiste, et t'as retrouvé d'ailleurs Damien Chazelle, donc le réalisateur derrière, puisque tu as prêté ton son de trompette pour Babylone, le blog, je sais pas si on peut parler de blockbuster, mais en tout cas un film...
Un film majeur.
Tu as fait quoi d'ailleurs exactement sur Babylone?
Sur Babylone, j'ai fait toutes les trompettes solo que vous pouvez entendre sur... En fait, à chaque fois qu'il y a le trompettiste qui est à l'écran, la majorité du temps, c'est moi, c'est mon son de trompette que vous entendez. Donc, on s'est partagé le travail avec Dante Winslow, qui est aussi un trompettiste de talent, qui aussi joue avec, entre autres, Justin Timberlake et Sean Jones. Mais la majorité des trompettes à l'écran, quand c'est les parties de solo qu'on entend, c'est ma trompette que l'on entend dans Babylone.
Bon, tu fais 3000 autres trucs, je pourrais en parler, mais il faut quand même dire aussi qu'en 2001, tu sors ton premier album solo. Où tu
2021.
De, 2021, pardon, bien sûr, 2021. Entre pop, jazz, funk, soul, rock aussi.
Ouais.
Et puis, il y a peu de temps, un single.
Ouais.
Qui annonce un nouvel album.
Exactement.
Mais tout ça, on en reparlera aussi. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on divise un peu comme d'habitude, c'est un peu la tradition dans DLT, on essaie d'organiser un minimum les discussions.
Un minimum.
Parce que c'est une émission de passionnés, on parle, c'est pas grave, etc. Mais pour pas non plus partir dans tous les sens, on cadre un poil. Okay. Et on va commencer par s'intéresser à ta formation et surtout comment tu passes du jazz aux musiques populaires de manière générale. Ces musiques qu'on retrouve ensuite sur tes albums, funk, pop, soul. Et le premier truc que je me demande, parce que je pense que c'est pas tous les enfants, c'est quoi cet attrait pour la trompette? Quelle idée de se mettre à la trompette? Tu vois, attends, la guitare, je comprends, le piano, je comprends, la trompette, c'est quoi ça?
C'est le plus bel instrument du monde.
Raconte-nous.
C'est le plus bel instrument du monde. En fait, moi, j'ai commencé par le piano à 5 ans. Alors, tu vois, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un piano ici. Et moi, petit, chez mes parents, il y avait un piano droit comme ça, similaire. Et il y a des photos de moi, tu vois, avec mon petit pyjama bleu de gamin, je dois avoir quoi, 3-4 ans.
Et parents musiciens, ils te mettent tôt à la musique aussi?
Alors, mon père mélomane, il joue du piano en amateur. Mon grand-père maternel était violoniste. J'ai jamais eu la chance de le voir jouer, malheureusement. Mais mon père est fan de musique, c'est-à-dire que à la maison il y avait des vinyles. Moi, mon truc, c'était le dimanche matin, c'était le vinyle qui passait. Il mettait différents styles. J'ai eu tout, c'est-à-dire que j'ai eu du jazz, j'ai eu de la soul, de la funk. Je me rappelle un exemple, c'est très drôle, on parlait d'exemple plus tout à l'heure, mais quand Killing Me Softly des Fugees est sorti. Et il me dit, ouais, vous, là, vous écoutez votre version machin, bouge pas. Et
Roberta Flack.
Il va dans son espèce d'armoire avec les 40 000 vinyles qu'il a. Il me sort ça et il le met sur. Tiens, ça, c'est la version originale, Roberta Flack. Ok, d'accord. Voilà, c'est un passionné de musique. Le lundi soir, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Jazz 6 qui passait sur la 6.
Ouais.
Il allait, hop, il mettait sa cassette VHS. Pour ceux qui connaissent pas le VHS, c'est un truc qu'on mettait dans le caméscope, dans le magnétoscope.
Ouais.
Et il enregistrait les émissions. Et je me rappelle que des fois, bah, ça arrivait que le samedi après-midi, bah, il mettait des trucs. Et moi, j'étais dans ma chambre en haut, je descendais, tac, je me mettais dans le canapé, je regardais les émissions qui passaient, quoi. Lui, il vaquait à ses occupations, mais il y avait ça qui passait à la télé. Et moi, je regardais, j'observais les musiciens et voilà. Et donc, pour en revenir à pourquoi la trompette? Donc, j'ai commencé par le piano à 5 ans. J'ai fait beaucoup de piano classique. Et j'étais dans une école qui s'appelait le Jupo au Havre, qui s'appelait Jazz Union Porte-Océane. Porte-Océane, le deuxième nom du Havre. Et donc, on faisait des ateliers d'éveil musical où tu avais des profs, profs de guitare, venaient montrer l'instrument. Chaque prof venait faire un peu une démonstration d'instrument. Et je me rappellerai toute ma vie le moment où mon prof de trompette, Alain Loisel, a passé la porte et a commencé à jouer de la trompette. J'ai regardé le gars comme ça, je suis rentré à la maison, j'ai fait « c'est ça que je veux faire ».
Alors que toi, tu faisais du piano, du coup.
Et je faisais du piano, tu vois. On apprenait aussi à faire différents instruments, tu vois. On apprenait les percus, machin, on essayait un peu tout. Mais moi, quand il est rentré et qu'il a joué la trompette, le son, il m'a tellement touché que je suis rentré, j'ai dit « mes parents, c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose ». Donc mes parents m'ont dit « t'es sûr ?»« Ouais, je suis sûr. »« Ok, d'accord, mais continue un peu quand même le piano ». J'ai eu ma première trompette de poche que j'ai toujours. Et voilà, c'est comme ça que l'amour pour la trompette a commencé et je me suis lancé là-dedans. Et
donc là, t'avais quel âge à peu près?
J'avais 8 ans.
Ah ouais, ok.
J'avais 8 ans, quoi.
Une formation précoce.
Ouais, ouais, précoce. Et ce qui était très bien, c'est que donc, j'ai eu la chance de commencer la musique dans cette école de jazz, mais en parallèle, j'étais aussi au conservatoire à l'école de musique du Havre, où j'avais aussi une formation classique. Apprendre le solfège, tout ça. J'ai eu aussi mon professeur de trompette classique, Sylvain Maillard. J'avais commencé avec un autre professeur qui s'appelle Philippe Langlais, qui était aussi directeur des orchestres d'harmonie de la ville du Havre, où je faisais aussi de la musique d'harmonie. J'ai eu Sylvain Maillard, qui était mon professeur de trompette classique. Et voilà, j'ai eu cette formation autant classique que jazz, qui a pu me donner les bases de pouvoir faire de pouvoir faire de la trompette. J'étais pas non plus plus l'un plus l'autre. J'ai vraiment fait les deux en parallèle. Même si j'avais vraiment un plaisir pour tout ce qui était le jazz, parce que je faisais aussi de la salsa, j'ai fait du big band, c'est-à-dire musique en groupe, j'ai fait de la musique latine, j'ai appris un peu aussi tout ce qui était funk et tout, donc j'ai vraiment eu toute cette culture et tout cet environnement qui m'a un peu forgé et formé à avoir cette base pour la suite et après décider de ce que j'avais envie de faire, quoi.
C'est marrant parce que moi, je suis toujours étonné par ces enfants ou adolescents qui choisissent des instruments qui sont un peu moins populaires, tu vois, ou que tu retrouves moins dans le groupe du coin, entre guillemets, ou dans le bar quand tu vas voir un groupe, etc.
Ouais, carrément, ouais.
Et je me demande si... moi, par exemple, je suis guitariste.
Ouais.
Bon, guitariste modeste, mais guitariste.
Oh.
Et j'ai quand même été marqué, notamment dans mon adolescence, par quelques modèles, entre guillemets, qui me donnaient envie de continuer à travailler mon instrument, ou de reproduire des choses, de reprendre des... Toi, tu te rappelles un peu, en tant que trompettiste, est-ce que t'as assez vite écouté de la musique à trompette, entre guillemets, comme il y a de la musique à guitare, tu vois, et des gens qui sont devenus des rôles modèles, est-ce que t'as voué un culte à des trompettistes?
Pour moi, j'ai deux trompettistes dont je suis archi fan. Miles Davis, numéro 1.
Normal.
Numéro 1. Et je vais revenir sur une anecdote après le concernant. Et Roy Hargrove, aussi trompettiste, voilà. Deux très grands pour moi trompettistes, et entre autres j'ai aussi Dizzy Gillespie.
Tu les découvres adolescents, voire enfants, ces gens-là, ou plus tard?
Alors, pour revenir à l'anecdote de Miles, Miles est décédé en 91. Je suis gamin, je vois ce gars, tout le monde parle de la mort de Miles, ça m'affecte comme si, voilà, il y a quelqu'un de ma famille qui est peut-être pas autant aussi fort, mais c'est quelqu'un. Moi, la première fois que j'ai vu Miles Davis, quand c'était son concert à la Villette en, je sais plus quelle année c'était, où le gars, c'est la rockstar des jazzmen, quoi. C'est une rockstar internationale. Et moi, je vois ce gars-là, il a le look, il est looké, avec ses grandes lunettes, ses pantalons en cuir 10 fois trop larges, les vestes, machin, et le gars, il joue, il fait 3 notes, mais les notes, elles sont classe, quoi. Le gars, il est classe, il a ce truc-là. Je dis, moi, pour moi, c'est une rockstar. Et je me rappelle des vidéos, justement, que mon père nous mettait à la maison, et moi je me rappelle de ce concert-là, je vois ce gars-là, je me dis, c'est qui cet extraterrestre? Après j'ai un peu scruté à la bibliothèque, tu vas chercher à l'époque tu allais chercher les CD, tu donnes ta carte, tu récupères les albums que tu ramènes dans la semaine, donc voilà, j'ai écouté un peu, j'ai creusé entre Miles, Dizzy Gillespie énormément, parce que j'adore la musique latine, Arturo Sandoval, pareil pour les aigus. C'est premier, je voyais faire. Je dis ouais, je veux faire pareil. Donc forcément.
Tu dis pour les aigus.
Pour les aigus, parce que tu le registre sur aigu de la trompette, où c'est dans le là-haut. Mm-hmm. Moi, j'allais écouter ça. J'essayais de reproduire, même si c'était pas ça à l'époque. Et j'essayais de reproduire vachement ça. Et pour moi les deux. Roy beaucoup plus tard, bien sûr. Mais pour moi, le modèle, c'était Miles Davis, quoi. C'est pour moi, c'était le gars, c'était une rock star, quoi, au même titre que Michael Jackson, Prince et tout ça. Donc,
tu penses que si t'étais pas tombé sur ce rôle modèle-là, tu te serais quand même accroché à la trompette, ou il a vraiment lui déclenché un truc qui fait que ça a encore plus renforcé ta volonté de maîtriser cet instrument?
Bah, j'adorais déjà l'instrument.
Ouais.
Il y a cet album Toutou qui est sorti, produit par Marcus Miller, où il joue le fameux titre Toutou. Moi, ça m'a énormément touché. Est-ce que rôle modèle,
c'est vachement important, tu vois, pour que les gamins, justement, ils se...
Bah, en fait, ce qui a été génial dans mon apprentissage d'instrumentiste et dans toute ma formation, c'est que j'ai pu apprendre dans des orchestres. Le fait d'apprendre dans des orchestres, pour moi, c'est que je voyais des sections. Bah, en fait, j'écoutais pas forcément que Miles. J'allais écouter la section de cuivre de Phil Collins à l'époque, les Phoenix Hands, pour tout ce qui, voilà, comment ça sonnait. Sur Earth, Wind & Fire, j'ai écouté ça en long, large et travers. Stevie Wonder, comment ça jouait, la façon d'interpréter. Donc, je me suis un peu fait ma sauce tout seul. J'ai un peu tout mis dans mon pot. Et voilà, je pouvais très bien arriver un jour à écouter du Miles, comme écouter de la funk avec Parliament aussi, et j'écoutais ce qui se passait, et je prenais un peu ce que moi me parlait à l'époque, quoi. Après, bien sûr, comme je grandissais, je prenais un peu plus et j'écoutais un peu plus, j'allais un peu plus développer, écouter un peu plus en détail, voilà, faire les relevés des titres, mais je pense que oui, Miles a eu vraiment un impact important. Et je pense que mes parents ont eu aussi un impact important. Je pense que si moi, mes parents mettent pas de musique à la maison.
Ouais, en fait, là, ton père, il mettait Jazz 6, mais ça se trouve, s'il avait mis Rapline.
Mais c'est pareil, parce qu'après, tu vois, on parle de rap, mais moi, le rap, avec mes potes d'école.
Ouais.
j'écoutais, on se passait les albums, quoi. Ouais. J'ai découvert plein de groupes de rap à l'époque, des rap américains aussi, parce que mes potes d'école aussi écoutaient ça. Mmh.
Ouais, donc t'avais toujours le, t'étais dans un truc assez classique, mais t'étais pas fermé à ce qui se passait autour.
Ah non, j'ai jamais été fermé. Les Red Hot, j'ai découvert quand j'étais au collège, tu vois, et les potes me passaient les albums. Donc c'est, et toute cette musique là aussi, ça fait que voilà, ça forge entre guillemets mon artiste entre guillemets. Mmh. Et voilà, toutes ces expériences, t'écoutes des trucs. Moi, j'adore écouter plein de choses. Les gens disent ouais, j'aime bien écouter ça. Non, moi j'aime écouter mais tout style de musique. Hein. Il y a un matin, je peux très bien me réveiller et dire je vais écouter du Ludovico Einaudi, parce que j'en, pianiste italien, parce que j'ai envie d'écouter des trucs posés, machin, des balades au piano, j'ai envie d'écouter ça. Demain matin, Rage Against the Machine ou Nirvana, parce que j'ai envie d'écouter un truc qui va me donner la pulse, quoi. Je suis pas fermé à ça. Ouais. Parce que toutes les musiques, justement, je pense, arrivent à éveiller, justement, peut-être des zones grises dans le cerveau qui font que tiens, ce titre-là, il me parle. Peut-être que tu irais pas écouter un titre ou un artiste parce que tu vas dire, bon, machin, ça me parle pas, mais ah tiens, ce titre là j'ai beaucoup aimé, tiens, mais je vais écouter, je vais aller approfondir cet artiste là et voir ce qui se passe. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, quoi.
Tu évoquais le titre Toutou de Miles Davis, qui a été pour toi une révélation d'une certaine manière. On s'écoute un petit extrait.
Yes.
Allez.
Et du coup, c'est à quel moment que toi, en faisant ça, en plus de ta scolarité classique avec des camarades qui allaient à l'école et puis qui te voyaient partir le mardi après-midi pour aller à l'orchestre, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est ce truc-là que je veux vraiment faire, genre je veux travailler dans ce, au moins dans la musique, dans ce domaine-là, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui était très tôt ou ça arrivait plus tardivement
En fait, je me suis jamais trop posé la question. Mmh. Moi, je sais que j'adorais prendre ma trompette.
T'as suivi un cursus et voilà,
fait
parcours. Ouais.
J'adorais répéter. Moi, les moments, j'ai envie de dire que les moments les plus kiffants pour moi, c'était les moments où je faisais les concerts, parce que j'adore ça. Mmh. J'ai eu la chance de jouer dans mon premier groupe avec des adultes. J'avais 12 ans. Je faisais un groupe de rhythm and blues. Et moi, quand les gars allaient répéter tous les mercredis et que je savais qu'il y avait à avoir un concert dans 15 jours, ah, j'étais content d'aller au concert. Je préparais ma petite chemise, mon petit jean, mes petites baskets et ma trompette, quoi. J'étais vraiment au taquet.
Mais ça veut dire qu'à 12 ans, tu jouais avec des adultes aussi.
Ah ouais. Ouais. Ah, mais même avant, j'ai que, l'avantage du jupo, c'est que je me suis retrouvé dans des groupes, dans ce qu'ils appelaient les combos jazz. Les combos jazz où, voilà, bah, on va prendre un quintet, t'as donc basse, batterie, piano, on va dire guitare et trompette. Et moi, ça m'arrivait de jouer avec des adultes dans ce groupe-là, quoi. Donc, c'était pas D'accord. un truc où. Donc, ouais, ça, depuis tout petit, j'ai toujours joué avec les adultes, quoi. Mmh. Et c'est vrai que, ouais, un, c'est formateur. Parce que, bon, forcément, la mentalité est différente. Et deux, t'as envie de prouver, quoi.
Ouais, bah ouais.
Avec des adultes, faut t'as envie de prouver.
Faut assurer, quoi. Ouais.
Ouais, j'ai 12 ans, mais ouais, je suis là, quoi.
Ouais. Et alors, dans la continuité de la question de Daz, l'idée de la professionnalisation, parce que il y a évidemment l'apprentissage de l'instrument, et puis ensuite, il y a l'apprentissage d'un métier. Et bah, le métier de musicien, c'est pas seulement jouer de la musique, c'est aussi être capable de trouver des plans, d'être rémunéré, de etc. Et en fait, tu décides d'aller à Paris, c'est justement dans cette optique-là. Comment ça se passe, la professionnalisation? Comment tu rencontres Florent Pagny? Comment ça devient vraiment une carrière, tout ça?
Beaucoup de rencontres. C'est énormément de rencontres.
Des rencontres où tu fais des gigs, tu traînes dans des lieux, comment ça se passe?
Par exemple, pour l'exemple de... l'exemple de Florent Pagny, ça venait... Alors, quand je suis arrivé à Paris, j'allais dans les clubs de jazz. Mon endroit de prédilection, c'était le Baiser Salé. Voilà, j'allais à la jam tous les lundis. Et puis, bon, tu joues et les gars t'écoutent, t'entendent. Voilà, à la fin, t'échanges le numéro de téléphone. Demain, ah bah tiens, j'ai besoin d'une répétition pour un chien. Est-ce que tu peux me dépanner? Je peux pas la faire. Donc, t'arrives, tu vas à la répétition, tu remplaces, tu rencontres d'autres personnes. Ah tiens, je vais prendre ton numéro, machin. Ah tiens, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux venir faire? Tatata, de fil en aiguille. Voilà, je joue avec un tel artiste. Donc, je me retrouve à jouer avec. À l'époque, je jouais avec Raoul Paz, chanteur cubain, qui fait un concert de gala au Grand Rex pour Cuba, et qui vient parmi les invités. Donc, je sais qu'il y avait Yannick Noah qui était là, il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait Zazie qui est venu faire un titre. Et il y a Florent Pagny, et Florent arrive et voit les cuivres, dit, ah putain, c'est mortel, ça sonne super et tout. Tiens, donne-moi ton numéro, on sait jamais et tout. Ok, d'accord, je donne mon numéro à Florent Pagny, quoi. Peu de temps après, il m'appelle, me dit, voilà, on part en tournée. On va faire la grosse tournée de 2010, c'était en 2010. Et voilà, j'aimerais que tu me proposes une section de cuivre pour cette tournée. Et voilà, c'est comme ça. Et après, c'est de fil en aiguille, tu rencontres des gens dans les groupes dans lesquels tu joues. Hein. Et ton numéro circule et les gens t'appellent. Et c'est comme ça que tu te construis un peu ta carrière. Et j'ose espérer que voilà, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et les gens t'appellent, t'es à l'heure, tu poses pas trop de questions, tu fais ton taf. Et...
Alors ça, c'était la question corollaire justement de ce truc-là. C'est est-ce que toi, on t'appelle, tu viens, ou alors on t'appelle, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer avec cette personne, ce style de musique, est-ce que tu t'interdisais des trucs, est-ce que tu vois, tu pouvais te permettre d'être un petit peu picky, dire ouais là oui, là non, ou est-ce que tu disais vas-y, moi on m'appelle, j'y vais et
après, ça dépend du projet. Si j'ai envie de te dire, si demain on t'appelle et que le projet te parle pas du tout, si c'est juste pour aller prendre de l'argent.
Même à l'époque, tu pouvais avoir cette réflexion, parce qu'aujourd'hui où tu es plus installé, pourquoi pas?
Non, mais... en fait, moi, je me suis toujours dit que voilà, il faut que le projet me parle, quoi. Parce que ça se ressent. Ça se ressent, on fait de la musique. Donc la musique, ça se passe ici, entre autres. Et si t'as pas envie...
Dans ton cœur, j'ai juste pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, dans ton cœur et dans ta tête aussi. Mais si t'as pas envie, je peux te promettre que le public, l'artiste va le sentir. L'artiste sent. Et c'est ni gagnant pour l'artiste, ni gagnant pour toi. Donc,
ouais, mais il n'y a pas des trucs où tu t'es dit... Ouais, j'y vais, mais bon, pas plus que ça, tu vois, let's go. Et puis en fait, arrivé sur place, tu fais ah ouais non, mais en fait c'est trop bien. Ou
bien genre... sûr qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bien sûr que j'ai fait énormément de trucs parce que j'aime la musique avant tout bien sûr qu'on fait d'abord ce métier. Je parle pour moi. Je fais d'abord ce métier parce que j'aime la musique, quoi. Et bien sûr, tu te retrouves dans des trucs où le mec te dit voilà, est-ce que tu peux. À l'époque, on me dit voilà, est-ce que tu peux venir faire ça. Bon, je connais pas trop, mais je vais voir. Donc ouais, j'y vais. Bah, j'ai des potes qui sont dedans, donc on va y aller, on va écouter, et puis on va s'amuser, quoi. Et je pense que c'est important de pas perdre de vue le côté amusement et le côté se faire plaisir, quoi. Alors bien sûr, c'est des plans entre guillemets foireux. Je pense qu'on en a tous fait, c'est pas.
Il y a des trucs où genre tu t'arrives, tu viens pour ce qu'on te demande de poser, donc une trompette sur un titre ou plusieurs, et où en fait ton input à toi, ça permet peut-être de sublimer le truc, où tu vois, où on se rend compte que finalement, genre on te prenait en mode un petit peu musicien. C'est annexe, secondaire sur le truc.
Une commande,
paf. Ouais, voilà, c'est genre, ouais, on veut ce truc-là, où en fait, les mecs, ils t'entendent jouer, ils font, oh putain, mais en fait, c'est ouf, il faut qu'on mette ça en avant, ou. Oui, c'est de transcender un peu le.
Ça a pu arriver, mais à chaque fois, c'est toujours, encore une fois, c'est toujours des histoires de collaboration et de partage. C'est-à-dire que voilà, un artiste qui va m'appeler pour faire un truc, je propose. Il va avoir son idée, mais je peux aussi proposer des choses et éventuellement ce que je propose est gardé et voilà, parce que c'est aussi après bien c'est aussi important de pouvoir aussi échanger, de pouvoir donner son point de vue, tu vois. Après bien sûr il y a des artistes où ils viennent te dire ouais moi je veux ça, tu fais ça et puis tu t'en vas, quoi. Bon, tu viens, tu fais ton truc et merci, au revoir, quoi.
C'est marrant parce qu'à t'écouter, il y a eu, je sais pas si on peut utiliser le terme, une forme de facilité parce que t'as dû taffer pour ça. Mais en tout cas, c'est passé relativement vite et relativement de manière fluide.
C'est fait, ouais, naturellement, on a l'impression. Ouais.
Alors qu'on sait que, bah, le monde de la musique, parfois, enfin, il y a pas de la place pour tout le monde, qu'il y a des musiciens qui galèrent, en fait, tu vois. Mmh. Toi, tu te dis quoi, que t'as eu de la chance? C'est,
Il n'y a pas beaucoup de trompettistes, peut-être.
C'est ça.
Par rapport
aux
guitaristes.
J'en connais un seul, c'est Ludo, autant on l'appelle, comme ça.
Non, encore une fois, je pense que c'est vraiment c'est vraiment un condensé de tout. C'est-à-dire que, bah, forcément, si t'arrives quelque part et que t'es pas recommandable, bah, les gens vont pas t'appeler. Mmh. T'arrives quelque part, ça se passe pas bien, les gens vont pas t'appeler. T'arrives quelque part, tu joues pas ce qu'il faut ou tu te la racontes, les gens vont pas t'appeler. Il y a plein de facteurs qui font que il y a pas que maintenant je trouve qu'on il y a pas que le facteur musique, il y a aussi tout ce qu'il y a autour et
savoir-être.
Il y a l'attitude,
Le savoir-être. Moi, je l'ai beaucoup appris aussi aux États-Unis, ça, tu vois, les trucs où on te dit voilà, séance à 10h, bah c'est quand on te dit séance à 10h, c'est séance 10h prêt à jouer. C'est pas séance à 10h, t'arrives, tu prends le café et tu commences à jouer à 11h. Mmh. Parce que l'heure de temps que t'as pas joué, le studio il est payé. Donc il y a plein de petits trucs qui font que j'ai appris aussi par rapport à ça. Donc je pense que c'est vachement un tout. Il y a pas que le côté trompettistique, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, et bien sûr il y a les gens qui ont envie de travailler avec toi, les gens qui se disent Ludo, on a bien aimé bosser avec lui parce que ceci, parce que cela, donc ouais, je peux le recommander à droite à gauche, et donc les gens t'appellent. Mmh.
Ça fait une belle transition, non?
Bah absolument, je crois. Incroyable. Qu'on peut passer à cette seconde partie qui est l'aventure américaine d'une certaine manière. Tu disais, vous croisez à Paris à la base avec Lenny Kravitz, c'est
ouais,
ça?
Ouais, on
France,
se croise à Paris, ouais.
Ouais. Pareil, c'est dans la continuité logique de ce que tu nous racontes?
Oui, parce que ça faisait, je bossais avec lui depuis 2000, donc depuis... J'ai commencé avec lui en 2009, mais officiellement, vraiment, ça, tout a vraiment démarré en 2010. On a fait une première tournée qui s'appelait Black and White America et donc fin de cette tournée 2012, on a quelques dates après à droite à gauche.
Donc tournée américaine du coup.
Tournée mondiale en fait.
Ah ouais.
On a fait Europe. On a fait tournée mondiale. Et donc moi aux États-Unis, bah forcément, au pays d'Oncle Sam, tu vois partout à droite à gauche, bah forcément tu croises tout le monde. Moi depuis petit, moi la culture américaine, je suis fan. Et donc dans cette période de transition entre deux tournées, septembre 2013, je dis je vais essayer de, après en avoir parlé avec Patrice.
Avec Patrice.
je me dis je vais tenter les États-Unis parce que c'est le pays, je me dis, où le pays où tout est possible. Et pour moi, c'est le pays de mes idoles. Je suis fan, donc encore une fois, la culture américaine. Et je me dis voilà, est-ce que je suis capable de me confronter à, pour moi, ce qui se fait de mieux au monde. Et la meilleure façon de le savoir pour moi, c'était de partir aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je suis parti à Los Angeles en 2013.
Est-ce qu'il y avait une idée aussi, parce que je sais que ça peut arriver, de s'exiler entre guillemets parce que
nul n'est prophète en son pays.
Ouais, il peut y avoir ce côté-là, tu sais, pas trouver son public ici et se dire bah vu ce que je fais, vu ce que je suis.
Ouais, le marché il est là-bas.
Peut-être que ouais. Il y a eu ce truc ou pas vraiment?
Non, il y a pas vraiment eu ce truc. C'était vraiment, voilà, pour moi, les États-Unis, c'est le top of the top, et je voulais vraiment voir si j'étais capable de me confronter aux musiciens. C'est vrai, ça fait très boxe machin, non, mais j'avais envie de voir si je pouvais me confronter aux musiciens américains,
ouais, si
et savoir
niveau,
si j'avais le niveau aussi, quoi.
Parce qu'il faut qu'on précise quand même, Lenny Kravitz, alors il est connu en France parce que c'est une star mondiale, mais je pense qu'il n'a pas du tout la stature, enfin la position qu'il a aux États-Unis, où c'est un artiste plus majeur.
Si en France quand même.
Tu penses?
Ah ouais, il est.
J'ai l'impression que les États-Unis, c'est quelqu'un d'encore plus important que l'image qu'on s'en fait en France.
Parce que le marché est plus grand. Parce que le pays est plus grand.
Je crois que Lenny Kravitz ici, il est coté quand même en France.
Ouais. Je te dis, en France ou même en Europe, le nombre d'arenas sold out qu'on a fait avec lui, monsieur, il sort, il voilà, monsieur est attendu partout où il va. Donc,
Et c'est quelqu'un qui, juste parce que tu dis le niveau américain, c'est que tu le vois justement en commençant à bosser avec Lenny Kravitz, c'est autre chose que ce qui se fait en France, c'est s'entourer de la crème de la crème des musiciens mondiaux même.
En fait, c'est ça, parce qu'en France, on a des musiciens de talent mais exceptionnels. Je pense qu'on ne précise pas assez. Hein. Je pense qu'on aime bien dire ouais non, mais on a des talents en France.
On les forme bien.
Parce qu'il y a de ça aussi. En France, on a vraiment une particularité, c'est qu'on peut savoir jouer de tout. Et ce qui est très 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 important dans les musiques actuelles, tu vois. On a vraiment des musiciens de très très gros calibre. Moi, pour ma part, j'avais vraiment envie de me confronter. Bah ouais, voilà, la crème de la crème mondiale elle est. Tout le monde va aux États-Unis, quoi. Et tu rencontres toutes les nationalités des meilleurs musiciens mondiaux. Passe par les États-Unis, que ce soit New York, Nashville ou Miami ou LA. Donc, moi, j'avais envie de me confronter à la crème de la crème, quoi.
Et t'as senti justement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, putain, il faut vraiment que je step up Genre, t'as senti la marche en termes de niveau quand t'es arrivé ou déjà.
Comment ça se voit concrètement? Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais, c'est une très bonne question.
Comme souvent.
faut que tu fasses ton trou, hein. Ouais. T'as beau jouer avec Pierre-Paul Jacques.
Mais qu'est-ce que tu vois?
Pierre-Paul Jacques.
Pierre-Paul ou Jacques.
Non, mais qu'est-ce que tu vois, les premiers concerts que tu fais avec Lenny Kravitz et surtout les instrumentistes qui l'accompagnent déjà avant toi,
ouais,
probablement.
Est-ce que tu sens,
tu
sens la diff avec,
C'est quoi? C'est carré? C'est des musiciens avec un toucher exceptionnel? C'est quoi?
Moi, je saurais pas le décrire par des mots, mais tu sens quand même que tu passes dans une autre dimension, que ce soit pour tout. Pour tout, tu passes dans une autre dimension. Moi, je me rappelle de jours où on, je sais plus quelle tournée on répétait, où on travaillait un nouveau titre et pendant 45 minutes, on jam sur une partie du morceau, quoi. 45 minutes, tu jam sur deux accords. Et ça tourne pas en 45 minutes, et il te balance des riffs de cuivre, tu joues les riffs de cuivre, tac, t'arrêtes, tu reprends, tu refais un autre riff, on essaye des trucs, 45 minutes, à un moment donné, je le regarde, je lui fais que j'ai plus de lèvres, quoi. C'est bon, tu peux te reposer. Je dis, ah bah ouais, au bout de 45 minutes, ouais, je veux bien. Je saurais pas le décrire parce que aussi en France on a une façon de travailler qui est exigeante aussi, mais là j'avais l'impression que c'était vraiment du plus quoi. Et forcément bah tu te retrouves, moi je me rappelle premier club où je suis arrivé, les jams, tu vas dans tous les clubs parisiens ou tous les clubs en France, tu vas, ça jam, ça joue, machin, t'écoutes. Là je me rappelle la première jam dans laquelle je suis allé, ça s'appelait dans un endroit qui s'appelle Hotel Café à Los Angeles. Là, tu regardes la scène, c'est que des gars ou des filles qui ne jouent qu'avec qu'avec du high level d'artistes, quoi. Et les mecs, ils rentrent de tournée, ils sont là, ils vont faire les jams, ils vont jouer avec un tel et un tel, et ils sont là, et en fait, ce qui fait que, bah, toi, t'arrives sur scène pour jammer avec ces gens-là, bah, en fait, t'es obligé de step up ton niveau pour voilà, parce que y a une émulation qui se forme, et t'es obligé, voilà, d'être là et de pas jouer point, tu vois.
On s'écoute un morceau que t'apprécies, sur lequel t'as bossé, que ce soit avec Lenny Kravitz ou d'autres artistes américains qui pourraient être un peu, enfin, qui sont chers à ton cœur, je sais pas.
Allez, on va. J'en ai deux, mais je vais me faire plaisir.
Vas-y.
J'ai eu la chance de jouer un solo sur ce titre qui s'appelle It's Enough de Lenny Kravitz. Donc je propose qu'on écoute ce titre qui s'appelle It's Enough.
Allez. On trouvera ton solo.
Il est vers la fin.
Quelle année ça du coup?
Shot him in the head because of his race.
Alors ton solo est vers la fin, c'est ça?
Oui, il est vers la
on
fin.
On essaie de le choper, attends, allez. Ce morceau là de il dure 8 minutes,
ouais.
Très répétitif, tu rentres dans le truc au fur et à mesure, j'aime bien.
Très long, ouais. Ouais. Très très bon clip aussi.
Si tu disais c'est sur le dernier album ça, c'est
dernier
ça.
Dernier album, ouais.
T'es dans le clip du coup?
Non, pas je crois que je dois être dans deux clips mais pas dans celui-là.
Ça se fait des clips de 8 minutes comme ça?
Ouais ouais.
On a parlé du fait que t'as senti voilà, que c'était une marche supérieure, une dimension supérieure pour les instrumentistes et pour les artistes que t'as accompagnés en débarquant comme ça aux États-Unis. J'imagine que quand tu tournes aussi avec un mec comme Lenny Kravitz, et d'autres probablement, mais l'aspect scénique c'est quelque chose aussi. Là, ça a été un apprentissage pour toi?
J'ai observé énormément pendant toutes ces années parce que c'est super important. C'est super important. Je l'ai vu au cours des années. Voilà, le look, lui, comment il se déplace sur scène, comment il interagit avec le public, les transitions entre les morceaux, tout est calculé forcément que j'ai appris énormément. Je l'ai énormément observé pendant toutes ces années parce que j'ai essayé de prendre un peu tout ça pour moi m'en servir dans mes shows aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un de très 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 rigoureux avec ça. Et j'ai pu aussi l'observer en France aussi, par exemple avec Florent Pagny sur la tournée. C'était très calibré, tout est machin. C'est faut faire ça 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 ça. Donc oui, forcément les expériences, je les ai prises à droite à gauche. Hein.
Pardon.
Vas-y, non, je t'en prie, vas-y.
Non, c'est que autant c'est pas tant une question de qualité artistique ou quoi que ce soit, mais par contre il y a un rapport au show. Et à la scène qui est quand même indéniablement différent aux États-Unis,
à l'américaine.
C'est pour ça qu'ils appellent ça le show à l'américaine. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est tout est calibré.
Ça veut dire quoi, toi par exemple, t'as dû apprendre
à te déplacer
aussi. Par exemple, tu te déplaçais souvent avec la trompette.
Ah, comment j'ai toujours fait depuis gamin. Le problème avec moi, c'était on avait du mal à me mettre à une place et fallait pas que je bouge sur ma chaise. Tu vois, c'était compliqué. Mais non, moi j'adore ça parce que ça fait partie aussi de ma personnalité. J'adore le côté showman avec lui j'ai appris. Je sais plus sur quelle tournée c'était. Voilà, à tel moment, voilà, quand c'est ton solo, tu viens devant. Voilà, on fait un truc un peu ensemble. À un moment donné, tu vas derrière. Non, tout est c'est vraiment à chaud. Hein, c'est vraiment calibré au millimètre, à la seconde près. Et je trouve ça,
dans les concerts on le fait, quoi, tu sais, où tu donnes justement la lumière aux gens qui accompagnent l'artiste et donc tu joues ce que tu veux à ce moment-là, ou est-ce que tu dis ok, je vais taper un solo sur ce titre-là?
C'est prévu en amont de tournée, si tu veux, quand on prépare la tournée. Ouais. Voilà, quand lui décide de sa setlist, savoir ce qu'il va jouer durant cette tournée. Généralement les parties solo que j'avais, hormis la dernière tournée où j'avais ce solo sur ce titre-là, tous les trucs se font durant les répétitions.
D'accord.
Voilà, d'où les fameuses jams de 45 minutes où ça jam. Ah ouais, tiens, je mettrais bien. Ouais. Tiens, vas-y, solo. T'as un solo de sax, vas-y, joue, solo de trompette. Ok, d'accord. Refais un solo de trompette. Ok, d'accord. À partir de là, on va prendre un solo de trompette et on va rallonger le titre. Et là, voilà, tu vas faire ton truc, machin, et tu fais ton solo.
C'est-à-dire que tu dois le fixer, ce qui a été fait en répète, le solo, tu vas vite l'écrire derrière, tu dois.
Non, là, c'est impro total.
Impro, ok.
Impro total sur une partie, et je me rappelle, par exemple, sur la deuxième tournée où j'avais un solo à la fin de Always on the Run. Alors, les premières dates, tu vois, je faisais mon solo, machin, j'arrivais pas à trouver une porte de. Pas que j'arrivais pas à trouver une porte de sortie, mais. Et par la suite, après, je crois qu'au deuxième ou troisième concert, j'ai trouvé un truc que j'ai fait et que j'ai gardé et qu'on a gardé en fait dans le déroulé de ce titre-là, qui fait qu'à chaque fois que voilà, quand j'arrivais à ce truc-là, tout le monde savait que c'était la fin et que ça reprenait derrière. Mmh. Au revoir, quoi.
Donc ça, tu l'as, t'as dû le travailler en fait.
Au fur et à mesure, parce qu'au début c'était sur un solo et lui et à la fin, moi je suis bon bah ouais, j'ai fini mon solo, voilà, on l'arrête, mais on sait comment le Ben sait que c'est la fin du solo alors que t'es dans ton truc, parce que généralement quand t'es dans ton solo, t'es parti, tu sais pas, t'es pas trop dans un truc de comptage de mesure ou des choses comme ça. Donc ce truc est arrivé où je faisais une montée et tout le monde savait que c'était la fin du solo de trompette et après le morceau prenait comme il fallait, quoi. C'est des trucs qu'on a travaillé après, je dirais pas de bêtises, aux balances des titres des concerts suivants, pour que vraiment que le truc soit calé. Ouais. Merci, au revoir, quoi.
Il y a une dimension sur laquelle on revient régulièrement, mais c'est un truc qui est aussi important dans notre émission, ce côté entre guillemets business, non pas pour question d'argent ou de fascination pour tous ces trucs, mais parce que ça rappelle en fait que c'est un métier, être musicien. Ouais. Et typiquement, alors il y a cette expérience avec Lenny Kravitz, mais ensuite tu vas travailler avec d'autres gens aux États-Unis. T'arrives à naviguer correctement dans ce milieu musical, à commencer à faire des collaborations, à s'assurer d'être payé, d'avoir ses droits, machin, etc. Comment tu t'en sors?
Mais déjà la langue. T'as fait
comme tout le monde, tu sais, t'apprends l'anglais au collège, au lycée.
Ouais, donc t'arrives avec un anglais scolaire là-bas,
Scolaire et en fait, je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'être propulsé à Seattle dans une ville où tu connais personne, il y a personne qui parle français, faut que tu manges, faut que t'achètes ton café, faut que tu fasses tes besoins. Tout ça, tous les trucs de la vie de tous les jours, et bah tu demandes. Et moi j'emmerdais tout le monde, hein. C'était bon, ça veut dire quoi, c'est quoi ce mot-là, quand t'es au resto, c'est quoi ça. Et les termes techniques de musique.
Ouais, encore pire.
T'arrives dans un truc où les gars ils parlent machin, t'as l'impression que c'est des extraterrestres.
Mais rien que les notes de musique, parce que
les gars parlent pas en do ré mi fa sol la si do, ils parlent en ABCDF, tu vois. Donc G sharp minor machin, ok d'accord ça machin, on reprend au hook, c'est quoi le hook? Donc tu vois, c'est tous les termes qu'il a fallu ingurgiter en très 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 peu de temps, quoi. Parce que si tu fais pas le travail toi-même, t'es laissé sur le bord de la route.
Après, oui, voilà, c'est ça, c'est marche ou crève, quoi.
Exactement.
Hey.
Donc, et pour ce côté collab, tu trouves un agent, tu te débrouilles tout seul.
Non, ça revient à est-ce que je vous expliquais un peu avant, ça revient un peu à ce que j'ai fait aussi en France, hein. C'est tu commences à, on t'appelle pour faire un remplacement là, ça se passe bien, ton numéro circule et les gens t'appellent et après ton nom fait vite le tour et les gens t'appellent pour travailler et généralement tu sais très vite si c'est sérieux ou pas, donc
T'as jamais eu de soucis de
te faire payer.
Ouais, te faire payer, t'assurer que t'es bien dans les crédits, que tu touches bien tes droits, etc.
On apprend toujours.
Hein. ça veut dire qu'ils avaient carottes quelque part.
Bien sûr,
quand on te dit que voilà, que tu vas avoir ton crédit pour un truc sur un arrangement que t'as fait et que à l'arrivée, tu vois que l'album sort et qu'il n'y a pas ton nom, c'est sympa. Mais après, tu apprends, hein, t'apprends très très vite.
Oui,
hein,
tu te fais niquer une fois, pas deux, quoi.
Ouais, tu vois,
ça fonctionne comme en France avec les droits SACEM, ce genre de truc.
Il y a un équivalent. D'ailleurs, comment tu transvases, comment tu t'assures?
Il y a des formes, il y a un truc qui est différent de la France ici, c'est qu'il y a l'Union des musiciens, ce qu'on appelle l'Union, c'est un peu le syndicat des musiciens, donc ALS et Local 47, et donc t'as le syndicat des musiciens qui est là pour représenter, savoir quand c'est les trucs Union, après t'as les trucs qui sont pas Union bien sûr, mais quand c'est les trucs Union, l'Union ils font attention à ce que ta paye ça correspond à un barème, ça correspond que quand tu passes un tannum d'horaire t'es payé en plus, que les pauses soient respectées, que les noms soient au crédit de l'album, que les noms soient au crédit des films, et tout ça est assez structuré. Après, il peut arriver que tu te retrouves sur des trucs où c'est non-union, t'es quand même payé pour ton travail, mais
c'est toi qui négocies tous les trucs toi-même, en fait, c'est ça, il n'y a pas de représentation.
Ou généralement, les mecs t'appellent, te demandent ton tarif, combien tu prends, et voilà, quoi. Donc, après, tu fais en fonction de pas mal de trucs, mais... Ce qui, ce qui, ce qu'il y a de bien entre guillemets, c'est que généralement quand t'es recommandé ou quelqu'un de ton entourage te recommande ou quelqu'un de ton entourage t'appelle pour quelque chose, généralement c'est pas trop des plans foireux, le truc est assez carré et c'est pas
c'est pas au pif, tu trouves un truc, tu réponds sur Craigslist et
exactement.
Tu te retrouves dans un bourbier. Okay.
Exactement. Généralement, quand t'es quelqu'un t'appelle et te dit voilà, j'ai eu ton numéro par un tel, donc tu sais que c'est sérieux. Après voilà, j'ai besoin de toi pour faire ça, c'est payé tant, tu sais que c'est sérieux.
Ouais.
Quand tu vas vraiment à la pêche aux informations pour tout savoir, machin, ouais, généralement c'est pas bon signe. Donc tu fais en fonction quoi.
Il y a quand même comme d'as posé la question, un organisme un peu de collecte, tu vois, de gestion des droits.
Oui, bien sûr.
Tu t'es penché là-dessus, t'as dû t'inscrire à des trucs, j'imagine.
Oui, t'es inscrit à tous ces trucs-là, et il y a l'équivalent de la SACEM aux États-Unis qui s'appelle l'ASCAP ou le BMI, ce sont deux organismes, qui s'occupent de collecter les droits. Donc, bien sûr, des fois tu reçois ton chèque, des fois quand il n'y a rien, tu reçois rien.
Parce que du coup, tu dois avoir. Enfin, c'est un truc de publishing où il faut que tu sois.
Ouais, quand tu co-écris sur des titres, ouais, forcément, oui, t'as du publishing. Après, quand tu fais des enregistrements d'albums pour des artistes, quand l'album sort et que t'es crédité. Et que tu reçois généralement aussi comme en France, c'est l'équivalent de la Spélidam, tu reçois ton chèque de royalties ou de choses comme ça.
Et t'étais formé pour tout ça ? Parce que c'est un truc aussi qu'on apprend évidemment, mais
j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Forcément, t'arrives dans un nouveau pays, nouvelle culture. Forcément que t'apprends sur le tas. Comme partout, tu fais des erreurs. Et ben après, ouais, mais tu sais, tu peux toucher ça si tu fais ça. Tu sais, ah ouais, d'accord, ok. Je me renseigne et puis. Forcément que tu apprends. C'est un peu la chose que j'aimerais que pour les jeunes qui arrivent à faire ce métier, qui est aussi une formation de ce business-là, parce que bien entendu que tous ces droits voisins où on peut toucher de l'argent annexe par rapport à du travail que tu as fait. C'est aussi important et je pense que des fois tu parles avec des gens et les gens sont pas au courant de tout ça et disent ah bon on peut t'as le droit à ça parce que t'as fait ça donc oui t'as le droit d'avoir des droits, t'as le droit de toucher
On le répétera jamais assez, mais on avait fait un épisode, si ces sujets vous intéressent, allez l'écouter, avec les gens de Le Faire par exemple, je sais pas si tu vois Le Faire. Il y a plein en fait de dispositifs d'accompagnement pour justement apprendre à gérer une carrière, alors que ce soit sur les aspects artistiques ou aussi économique, business, droit, etc. Il y a des gens pour accompagner qui sont là. Il faut aller frapper à la porte des SMAC, etc. Ouais. Et puis on vous orientera petit à petit, mais c'est des trucs essentiels, effectivement, t'as raison.
C'est important de savoir ça, parce que c'est, entre guillemets, c'est aussi de l'argent qui dort, qui appartient aussi aux artistes. Quand tu travailles sur des albums et que ta session qui a été payée, mais que t'as tous les à côté, imaginons que l'album cartonne et que t'as le droit aussi à ta part du fait que l'album cartonne, c'est bien de pouvoir savoir quel organisme tu peux t'appuyer pour récupérer cet argent. Donc maintenant je pense qu'on ne peut plus être musicien sans en ignorant tous les à côté, toutes les choses qui sont inhérentes à notre travail. Donc il faut, comme tu dis, se renseigner, chercher un peu, fouiller un peu et ne pas hésiter surtout à demander, parce que moi je suis passé par là aussi et j'ai demandé à des amis, voilà, comment tu fais ci, comment tu fais ça, mais comment on se fait pour toucher cet argent? Ouais, mais en fait tu fais ça, mais faut pas hésiter à poser les questions, il y a jamais de questions bêtes.
Moi par contre j'ai une question bête en l'occurrence. Non, c'est lorsqu'on est musicien de tournée qu'on accompagne, alors que ça soit en France ou aux États-Unis, t'as un cachet, c'est de l'intermittence, et comment ça se passe? Je sais pas du tout. Quel est ton statut en fait?
Moi, je suis résident américain, donc je suis pas en France. Je ne suis pas intermittent. Cependant, alors il y a deux choses distinctes entre la France et les États-Unis, c'est que aux États-Unis, quand tu es en tournée, tu es payé à la semaine, et en France, tu es payé au cachet. C'est vraiment la différence que je vois entre les deux, quoi.
Il y a deux trucs d'Az dont il faut qu'on parle encore avec Ludo sur cette aventure américaine. Après, on passera aussi à sa carrière solo, bien évidemment, pour terminer le podcast. Il y a deux trucs qui sont fascinants, c'est bah, le travail quand même autour du cinéma, notamment avec Damien Chazelle, il faut qu'on en parle. Mm-hmm. Mais peut-être avant cette aventure, on en a parlé un peu avant l'émission, mais parce que parmi les collaborations américaines marquantes, il y a celle quand même avec Kanye West. On précise que Kanye...
On le précise à chaque fois.
Ouais, mais je considère que c'est un artiste majeur, mais qui qui dit des grosses bêtises aussi, qui
ouais.
est fou, mais qui en tout cas musicalement a marqué son époque profondément.
Continue, je pense.
Et toi, tu as quand même eu l'occasion de collaborer dans le cadre des Sunday Service. Tu nous rappelles un peu en quoi ça consistait, ce que tu as fait, toi?
En fait, tous les dimanches, il y avait... en gros, c'est un orchestre de gospel, quoi. Et donc, on faisait... On jouait des titres visités.
Avec Kanye présent à chaque fois.
Kanye était là. J'ai aussi eu la chance d'avoir un jour DMX qui est venu rapper lors d'un Sunday Service. Et en fait, voilà, c'est du gospel. On faisait du gospel ça a été vraiment une expérience incroyable parce que je sais plus combien nous étions, on était un paquet de musiciens,
chaque fois on voyait
les chœurs et tout, et
c'est un big band, quoi, vraiment.
Ouais, et le moment où, quand tout le monde se met à chanter là, je sais pas si vous avez l'occasion d'aller voir des messes gospel aux États-Unis, c'est un truc, c'est incroyable, et il y avait vraiment un truc qui se passait à ce moment-là, donc j'ai eu la chance de faire ce truc là pendant quelques mois. Et ça a été voilà, il se passait vraiment un truc assez chouette, et le tout Hollywood venait voir ce truc là, donc ça a vraiment été une expérience incroyable, quoi.
Et ça aussi, c'est un plan qui est arrivé par une connaissance de connaissance qui a glissé ton blaze ou ton bureau.
En fait, il cherchait quelqu'un pour aider à ranger les cuivres. Et j'avais un de mes meilleurs amis, Roland Garaté, qui est un percussionniste, qui faisait déjà partie du Sunday Service. Et quand ils ont commencé à parler de ça, mon nom est arrivé. Mmh. Ils ont checké un peu, ils m'ont appelé, voilà, si j'étais intéressé pour faire ça. Donc je me suis retrouvé à faire ça. Et ça.
Donc c'était pas que jouer de la trompette, c'était aussi
aider pour les
les arrangements,
les arrangements de cuivre et choses comme ça. Donc ça a été vraiment une expérience cool. Et donc quand je me suis retrouvé à faire ça, voilà, encore une fois, c'est les connexions, les gens que tu connais et qui eux vont te conseiller pour plutôt recommander pour faire des choses. Donc c'est comme ça que ça a pu démarrer cette aventure aussi.
Et les cercles en fonction des esthétiques, sont poreux. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les mecs du rap, les mecs du rock, etc. Est-ce que dans l'industrie, en fait, il y a des liens? Est-ce que tu vois, tu pouvais atteindre différents cercles,
Ouais, parce que encore une fois,
c'est les mêmes personnes.
Non, mais t'as toujours un dénominateur commun à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne qui elle par exemple
fait le pont, en fait, entre les.
Ouais, va faire le pont, par exemple. Et histoire toute bête, je rencontre un mec dans une jam, et lui connaissait un gars rock qui organisait des jams rock, et ils avaient besoin d'une section cuivre pour faire lors d'une soirée rock. Le gars dit, tiens, j'ai rencontré ce trompettiste français, machin, Ludo, ok, donc le mec me met en contact, tac, je rencontre ce gars-là, Steve Ferlazzo, il m'invite dans ses jams du mercredi soir, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le circuit rock, circuit rock de Los Angeles, pas par rapport à Lenny, mais par rapport justement à ce gars-là. Mmh. Et après, forcément, tu rencontres d'autres gars qui jouent dans d'autres cercles, en fait, tu assistes à toi, en fait, c'est pour ça que je dis c'est toujours important de faire des connexions, de rencontrer les gens. Si tu rencontres pas de gens, c'est compliqué de pouvoir voilà, élargir ton cercle, et un, ton cercle d'amis, et deux, ton cercle de jouage, quoi.
Et alors, c'est beau, t'as vu Babylone, toi, Daz?
Non,
je l'ai pas vu non plus, merde.
Moi, je l'ai trouvé, bon, je vais pas le dire là, parce que potentiellement il touche des droits sur les places et sur les... Mais je l'ai trouvé par terre, et
je touche rien. Oui, c'est moi que
sur le site de mon oncle américain là.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc il est
tu vas le voir, quoi.
Oui, c'est prévu, en plus c'était dans ma watch list.
Bon, j'imagine que c'est lié au fait que tu avais bossé sur The Eddy. T'as été acteur quand même aussi sur The Eddy.
Oui.
Comment ça arrive, ces histoires de cinéma, pareil, c'est des cercles poreux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec de un mec.
Non, mais déjà, pour jouer de la musique, faut l'apprendre, mais pour jouer la comédie.
En plus!
Faut l'apprendre aussi, quand même.
Arrête, t'es énervant, tu vois.
J'ai appris sur le tas.
Ouais.
J'ai appris sur le tas. Quand je suis arrivé sur la série, j'ai appris sur le tas. j'ai pas de formation. Oui, j'ai pris quelques cours à LA pour savoir de bah bien sûr de quoi ça parle, parce que tu vas pas arriver dans un truc comme ça comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Mais c'est j'ai pris quelques cours mais j'ai surtout demandé des conseils à certains acteurs de la série.
Il y a qui comme acteur qu'on...
Il y a Taha Rahim, il y a Leila Betty.
Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'était quand même des acteurs français, du coup, ça.
Oui, il y avait André Hollande qui a joué dans plein de films.
Ce qu'on précise, c'est que le réalisateur, enfin celui qui est à l'origine de la série, Damien Chazelle, en fait, est franco-américain. Il a une grosse carrière aux États-Unis, mais il est aussi francophone, etc. Mmh. Il aime la France, pardon.
Il est francophone ou il est francophone?
Non, il est francophone.
Il est francophone. Ouais. Okay.
Enfin, il me semble. Okay. Je sais pas si vous êtes croisé.
Il a
un petit accent, non?
Il a tout léger, mais il parle très, très bien.
D'accord. Ouais,
son père est français, donc il parle très bien français, mais.
C'est comme Timothée Chalamet. Un petit peu.
Mais voilà, c'est encore une fois les rencontres. Je rencontre Randy Kerber à LA via mon ami Camille Rustam, qui est guitariste, qui habitait là-bas à l'époque. Je rencontre Randy Kerber via Camille.
C'est qui Randy Kerber?
Randy Kerber, alors Forrest Gump, piano, c'est lui. Je crois Titanic, c'est lui. Je cite quasiment tous les plus gros solos les plus gros thèmes de piano joués dans le monde du cinéma, les plus connus, c'est lui qui les a joués avec un autre gars, mais majoritairement c'est Randy. Donc Randy,
je connaissais Thomas Newman, moi.
ils sont plusieurs à se partager aussi le gâteau, mais Randy, très très grand pianiste américain. Je rencontre donc Randy, on sympathise, il me dit ouais, faut que je te présente quelqu'un, ok, d'accord. Là, je me retrouve à rencontrer un des plus gros producteurs américains qui s'appelle Glenn Ballard, qui a autre produit. Il a découvert Katy Perry, No Doubt. C'est lui qui a écrit le premier album d'Alanis Morissette, Jack Little Pill. C'est un gars, il touche un peu à tout. Il a coécrit Man in the Mirror de Michael Jackson.
Okay.
Le gars touche un peu à tout.
Ok.
Et voilà, on se rend compte, ouais, super, machin. On est en train de bosser sur une future série. Ce serait l'histoire d'un club de jazz à Paris avec un groupe, et voilà, ce serait peut-être un truc où tu pourrais éventuellement faire partie. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis retrouvé casté pour la série The Eddie qui est sur Netflix en ce moment.
Ben, allez la voir. Derrière,
ouais. Allez la voir. Non, mais en plus, ça fait longtemps que moi qu'elle est dans ma watchlist. Il faut absolument que je me penche dessus.
Vas-y, va
voir.
J'ai regardé ça aussi.
Mes premiers pas d'acteur.
Et alors, Babylone derrière. Alors là, c'est... tu apparais pas en tant qu'acteur dans Babylone.
Non.
C'est vraiment purement musicalement.
La bande son. Ouais,
tout le monde était. C'est la même équipe à peu près. Tout le monde était content de ton travail.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Damien Chazelle m'appelait un jour et me dit voilà, je travaille sur un nouveau film.
Parce que tu étais quand même en lien direct avec le réalisateur. Bah oui, forcément,
oui,
j'imagine,
depuis,
en tant qu'acteur.
Depuis The Eddie, on avait gardé un peu le contact. Un jour, il m'envoie un message, faut qu'on discute, j'aimerais te proposer un projet, d'accord. Il me dit voilà, je suis en train de travailler sur un nouveau film. Et il y a une partie importante, c'est le trompettiste. Alors moi, je me dis, ah, il va me proposer le rôle. Non,
mais c'est pas pour toi.
Non, mais c'est pas pour toi.
Mais par contre, si tu veux être le mec qui joue, on voit pas.
Non, il m'explique, il me dit, voilà, c'est un rôle important, c'est le trompettiste du film. Et c'est la transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Donc moi, je trouve le truc super intéressant. Et il me dit voilà, et j'aimerais que tu sois le son de ce trompettiste qui va s'appeler donc Sidney Palmer. Donc de Zoom call en Zoom call avec son compositeur attitré Justin Hurwitz. Voilà, il m'explique un peu le film et ce que j'aurai à faire. Donc il m'envoie un peu en avance les trucs pour que j'écoute. Et on se retrouve donc au studio Capitol à LA pour enregistrer la musique de film avant le tournage du film. Ce qui fait que moi, je dois enregistrer toutes mes parties de trompette pour que Giovanna Depo, qui est donc l'acteur qui joue Sidney Palmer, travaille mes solos pour le film. J'ai eu la chance de le rencontrer avant. On a pu échanger un peu sur la trompette. Il avait été coaché par un très grand trompettiste qui s'appelle Dan Fornero.
Ah, parce que du coup, l'acteur joue vraiment.
En fait, il a appris. Il a
au moins les notes.
Il a appris toutes les notes par cœur. Ouais.
Mais par contre, le son qu'on entend, c'est le sien.
C'est le mien, voilà.
D'accord.
Donc lui a dû apprendre à jouer de la trompette et.
Pour que ce soit crédible à l'image.
Crédible à l'image, exactement. Donc c'est pour ça que c'était aussi important que voilà. Moi, mon travail en amont était aussi important parce que ce qui en découlait de l'amont allait arriver sur le film. Donc. Ça a été vraiment une chouette expérience et j'avoue que ça fait très bizarre d'aller voir le film et de s'entendre et de voir quelqu'un d'autre jouer.
T'es pas dit bon quand même il aurait pu te prendre quoi.
Parce que encore une fois moi j'étais extrêmement honoré qu'il ait pensé à moi.
Ouais.
Il aurait pu appeler la terre entière, il m'a appelé et c'est vrai que bah forcément que c'est gratifiant et tu te dis que voilà il a le travail que j'ai pu faire avec lui sur Zieli ça lui a servi à quelque chose et qu'il a envie de voir autre chose donc j'étais vraiment vraiment vraiment
et toi,
heureux de tout ça quoi.
Toi t'es trop humble mais nous on peut le faire Damien pour le prochain
qui nous regarde
film.
À chaque fois je
bah
le
oui,
sais
pour le prochain film un petit effort plus que jouer de la musique si on peut carrément mettre Ludo devant la caméra
d'autant plus que c'est un truc que tu souhaites développer une carrière d'acteur.
Oui, parce que j'ai eu la chance de continuer à jouer dans d'autres trucs. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est ultra complémentaire avec la musique. Et ouais, j'adore être devant l'écran aussi. J'adore pas devant l'écran, devant la caméra parce que c'est le jeu d'acteur, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Tu développes des personnages. Tu t'apprends à te créer un personnage. T'apprends à te créer une identité, tu joues quelque chose, tu joues un rôle, et je trouve ça super chouette, quoi.
Mais c'est trop marrant parce que on l'écoute depuis tout à l'heure, t'as l'impression que, tu sais, bon, bah, je fais de la
trompette. Comment tout se passe?
J'aime bien, paf, ah, Florent Pagny, let's go, tourner, tac, tac, paf, Lenny Kravitz, ok, oh, je vais faire des films, allez, c'est parti.
Il doit y avoir un mélange, il y a probablement un peu de talent derrière tout ça, peut-être une bonne étoile aussi,
non, mais ça a l'air ultra fluide, alors je le dis pour les petits qui regardent cette émission. Attention,
c'est pas
que comme ça, hein.
Est-ce que
justement, c'est une question que j'avais par rapport à l'aventure américaine, c'est au moment où tu décides vraiment de poser tes valises là-bas, est-ce que t'as des gens ici qui t'ont dit non fais pas ça mec tu devrais pas y aller c'est pas pour toi c'est des carnassiers ils vont te broyer tu vois des gens qui croyaient pas forcément
bah c'est comme dans tout hein
ouais
c'est comme dans tout ce qu'on peut entreprendre forcément t'as des gens qui vont vouloir te mettre en garde mais moi à partir du moment où moi j'ai pris ma décision que ça a été aussi important que mes parents et ma famille soient derrière moi.
Ouais.
Après, moi,
okay.
Je trace, quoi.
Ok.
Je fais mon truc.
C'est-à-dire que tous tes proches, en tout cas, ton cercle le plus important a toujours été
derrière moi et c'est pour moi la chose la plus importante. C'est très 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 important et. Et voilà, ils ont toujours été là derrière moi. Ils ont toujours été très très très, je sais pas comment dire, supportive de ce que j'ai pu faire. Ils t'ont
encouragé.
Ils m'ont encouragé. Ouais. Voilà, ils sont pas posé de questions quoi. Et pour moi, c'était une belle preuve d'amour. Donc, je me suis pas posé 36 000 questions. Bien sûr, forcément, qu'il y a des gens qui vont se dire ouais pourquoi t'es parti mais non faut rester là non moi j'ai envie de faire mon truc je fais mon truc quoi
c'est beau ça
en parlant de ton truc on passe à la troisième et dernière partie de ce podcast
ton truc à toi
qui est ton truc à toi ta carrière solo et la première question que j'aimerais te poser pour faire le lien avec la précédente peut-être un peu provoque mais est-ce que c'est un exercice facile de se mettre dans une position peut-être un peu d'humilité entre guillemets en se disant j'ai déjà fait des énormes trucs derrière moi mais maintenant que j'ai mon projet solo
à zéro
il y a un peu de ça tu vois il faut que j'accepte aussi de ça va pas venir tout de suite tu vois probablement
il faut de toute façon c'est la vie elle est faite de haut et de bas hein. tu peux pas te dire ouais je veux être au top toute ma vie bien sûr que non forcément ça va être compliqué donc c'est bien aussi les remises en question c'est bien les petites claques c'est bien tout ça parce que c'est très important ça te forme et ça te forge et qui plus est moi me retrouver à être artiste solo bah tu te mets à nu en fait. Là t'es plus derrière à être en backup, à attendre de voir ce qui se passe et de faire ce qu'on te demande de faire. Là tu vas devant, tu vas à la rencontre de ton public, tu vas à la rencontre des gens, tu vas défendre ta musique, tu vas défendre tes projets, tu vas défendre ce que t'as là dans ton cœur ou dans ta tête. Bah forcément que tu te mets en danger, tu te mets à nu. C'est pas quelque chose d'évident quoi. J'imagine que pour vous, quand vous avez commencé aussi, c'est difficile de commencer un truc où bah t'es un peu exposé aussi. Parce que forcément les gens entre guillemets, bah les gens connaissent un peu ce que t'as fait avant et bah les gens vont t'observer. Donc c'est jamais évident. Moi, je sais que, forcément, bien sûr, je me suis posé la question de savoir si c'était le bon choix, si c'était pas le bon choix, de me dire, voilà, j'ai envie d'écrire des choses, j'ai envie de dire des choses avec ma trompette. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas?
Mais ça, c'est arrivé quand, à peu près, dans l'évolution de ta carrière? Est-ce que c'est un truc que tu t'étais toujours dit que tu voudrais faire de toute façon, et t'attendais l'opportunité, ou est-ce que c'est vraiment...
Tu composais en parallèle, par exemple?
Ouais, je composais depuis, mes premiers titres, je les ai composés en 2007 ou 2008, tu vois.
Ouais, ok.
Donc c'est un truc que j'avais, moi je voulais jouer, je voulais faire des fois, j'allais en club, je jouais ma musique et je me posais pas 36 000 questions. Après ça s'est vraiment développé avec le fait de jouer avec Lenny. Ça a commencé un peu à cogiter et quand j'ai quitté le groupe en 2019, que j'ai fait la série, là je me suis dit bon là j'ai envie de faire mon truc quoi. Là c'est maintenant j'ai envie de faire mon truc quoi. Et ouais. Donc je me suis posé, j'ai commencé à écrire... derrière Covid aidant, t'as du temps.
Ah oui, ouais. Finalement, c'était bien.
Ouais, le temps, il y a une bonne période où j'avais un gros poil dans la main aussi. J'ai envie de dire que ça m'a aidé, quoi. Ça m'a aidé à vouloir développer mon truc et poser, écrire de la musique et dire voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de composer, j'ai envie de faire des trucs qui, moi, me parlent. Et après quand ça commence, quand tu lâches un peu, j'ai eu du mal à lâcher l'album, le premier album, j'ai eu du mal à le faire, pas du mal à le faire, j'ai eu du mal à le finaliser. Quand je dis à le finaliser, c'est tu sais que la ligne d'arrivée est là en fait, mais t'as peur d'aller la franchir.
Ah ouais.
Et je me suis retrouvé dans des situations où je me rappelais appeler la personne qui a mixé le premier album, Scott Campbell, je l'appelle et je dis là sur le mix j'ai un problème avec le son de trompette machin, tu je crois que sur la mesure machin à telle seconde j'ai un, ouais, machin, et là c'était tous les jours que j'avais un truc qui allait pas en fait. Et à un moment donné il a dit écoute, là
c'est bon,
je pense que c'est bon, là je pense qu'il faut que tu lâches. Mon cercle proche aussi autour de moi,
tu saoules tout le monde,
je pense qu'il faut aussi que tu arrêtes. À un moment donné je pense que là c'est bon, faut que tu arrêtes, là c'est bon, faut pas que t'aies peur, faut y aller. Et en fait tu sautes du plongeoir de 3 mètres et puis ou du 5 et puis t'y vas quoi.
Donc ça donne Rebirth qui sort en 2021. On s'écoute le morceau éponyme pour commencer, après on s'écoutera d'autres extraits, mais c'est l'un des morceaux les plus funky, moi c'est le truc qui me parle.
Ah oui, bien sûr, lyonnais avant tout. Ce projet-là, tu t'entoures d'une bande de musiciens forcément pour t'accompagner. C'est des potes, c'est toujours les mêmes. T'as monté une équipe.
Alors l'avantage d'être un peu à droite à gauche, c'est que j'ai
plein de contacts partout.
j'ai plein de potes à droite à gauche, de très 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 talentueux. Donc là, j'ai fait J'ai fait une partie de l'album à Paris et une partie de l'album aux États-Unis.
Okay.
J'ai on va dire peut-être 50-50 de chaque et ça a été, pour moi c'est important à chaque fois que je fais quelque chose d'être en, j'appelle ça en famille, c'est pour moi c'est très important, c'est-à-dire que même les musiciens qui m'accompagnent sur scène, ce sont avant tout mes amis, avant d'être aussi des musiciens très talentueux. J'accorde vraiment une importance à ce côté l'amitié, le côté familial, tout ça, parce que
l'équipe,
forcément une équipe, moi je trouve que c'est dans la façon dont moi j'envisage la musique, c'est quelque chose, c'est du partage de potes, quoi. Et je sais très bien que par exemple en studio, bah si je décide de faire un truc, bah les gars vont plus peut-être me dire ouais je pense pas que ce soit nécessaire, ou peut-être que là cela, et il y a du retour, il y a énormément de retours, et on se dit les choses, il y a pas de
mais du coup par exemple sur un morceau comme Rebirth, mm-hmm. donc toi t'avais déjà parce que tu allais jouer à la trompette, tu l'avais déjà en tête. Mm-hmm. Tout ce qu'il y a autour, du coup.
Je l'avais déjà en tête aussi. En fait, je leur donne des démos.
OK.
Et par rapport à ça, eux apportent leurs pattes. Et ce que j'attends de chaque personne, c'est qu'ils soient eux, en fait. Si je t'appelle toi, c'est parce que j'ai envie que toi, tu me donnes.
Oui, pour qu'il y ait un échange.
Pas que tu fasses poum ching poum parce que tu t'es demandé de faire poum ching poum. C'est que t'apportes toi ton savoir et ta culture et ton jeu par rapport au morceau. Et pour moi, c'est très, très, très important que ça donne un truc qui se passe en studio. Entre les musiciens qui se connaissent, ça apporte des trucs qui forcément toi tu vas pas forcément penser, te dire j'ai pas pensé à ça, ils l'ont fait naturellement, et puis c'est des trucs que tu vas garder et ça apporte quelque chose.
C'est des trucs que même toi t'avais pas forcément en tête.
Exactement.
Ça s'est fait de manière organique.
Exactement. Beaucoup de discussions et des choses comme ça, quoi.
Tu parlais de démos. Tu utilises un peu d'autres instruments pour faire tes propres démos, tu vois.
Je travaille beaucoup avec un logiciel qui s'appelle Logic. Ouais, on peut citer.
On connaît bien sûr.
Au contraire, on aime bien tous les trucs de Geekos. Vas-y, dis-nous comment tu bosses un peu.
J'adore bosser sur Logic avec plein de plugins, bien sûr, Native Instruments, Splice, Arturia pour les sons, et
on connaît bien.
J'ai un clavier MIDI sur lequel je travaille, M-Audio, donc j'ai aussi un Korg, les mini Korg qui tiennent dans les sacs à dos, comme ça, voilà, c'est à peu près de la taille de celui-ci, je sais pas si on le voit.
C'est un monologue,
à côté du monologue, le tout petit.
Là c'est un contrôleur MIDI seulement,
un mini contrôleur comme ça.
C'est pas le micro Korg, celui.
Ouais, c'est un peu. Ouais, je crois que c'est ça en fait.
Avec le vocodeur intégré, t'as un micro dessus ou pas ?
Non.
Non, ok, pas, bah, c'est un autre alors. Très bien.
Et en fait, j'utilise ça vachement. Dès que je suis à l'hôtel, où j'ai aussi un micro Audio Technica sur lequel j'enregistre mes trompettes.
T'as ton setup genre.
J'ai mon setup avec moi.
Portatif.
Portatif que j'utilise directement. Avant j'utilisais beaucoup Apogee, maintenant j'ai une Babyface RME que j'utilise aussi, ou des fois j'utilise directement mon micro mon micro USB de chez Audio Technica que je mets pour poser des idées directement dans l'ordinateur, dans le Mac.
Okay. T'as un vrai home studio à la maison avec un système d'écoute correct, etc.
Ouais, j'ai des enceintes, j'ai une enceinte Yamaha.
Les monitoring que tout le monde a là, c'est ça.
La bonne écoute client.
Moi je les aime pas, elles sont trop dans les aigus.
Donc j'ai un peu de tout, j'ai du setup pour enregistrer à la maison parce que j'aime bien avoir tout de suite un retour de des idées qui me passent par la tête,
mettre en musique directe,
voilà, même si c'est pas le définitif, trouver des beats qui vont directement aller dans ce que je recherche pour après donner une direction musicale aux musiciens pour qu'ils puissent enregistrer correctement les choses, quoi, qu'ils aient une base à peu près pour travailler.
Typiquement sur Rebirth, où la basse est importante, la basse, tu joues un peu de basse ou alors tu fais avec des claviers, tu simules à peu près ce que tu veux pour la basse?
Non, je joue le clavier, mais encore une fois, je laisse. Il y a certains instruments. En fait, ce que je mets, c'est vraiment une base, ouais. Une base de travail. Maquette un peu améliorée, mais une base de travail. Après, c'est encore, ça revient à ce que je t'expliquais, c'est que moi, en fait, je fais énormément confiance aux musiciens. Là, par exemple, sur le titre Rebirth, c'est Brandon Brown, bassiste des Frères Jackson. Qui voilà, moi je le connais et je sais ce qu'il apporte.
Les Jackson 5 sans Michael.
Et je sais ce que lui apporte. Et moi quand je lui emmène la démo et qu'on est au studio avec tout le monde, bah ouais, moi je veux que ce soit toi. J'ai pas envie que ce soit ma ligne de basse toute pétée entre guillemets avec mes trois doigts qui va faire le truc.
Donc ah, on sent que ça slap et tout. Hein.
Ouais. C'est un peu difficile au contraire. Donc tu vois, j'ai dit voilà, l'idée c'est ça. Toi, sois toi.
Quoi. Fais ta magie quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Apporte-moi ta magie sur ce titre.
Alors qui t'entoure globalement sur l'album?
Alors sur les musiciens français, je me suis entouré de Vincent Bidal au clavier, Romain Joutard sur cet album-là, je parle. Hein, sur Rebirth, Vincent Bidal au clavier, Romain Joutard à la batterie, Haile Gino Baptiste à la guitare, Henri Dorina à la basse. Partie que j'ai enregistrée au studio Soult à Maison Alphand.
On est là.
On leur fait un coucou.
Ouais.
La Maison Alphand, on leur fait un coucou. Et l'autre partie, je l'ai enregistrée donc aux États-Unis. À la batterie, il y a Gordon Campbell. Nissan Stewart aussi à la batterie. Parce qu'il y a un titre où il y a un peu du mix. Donc il y a Gordon Campbell et Nissan Stewart à la batterie. Il y a au clavier Ricky Pajot et Georges Lax à l'orgue Amon et au Rhodes. À la guitare, il y a Michael Fish-Herring et Camille. Camille aussi a enregistré, récemment enregistré des guitares.
J'en connais aucun d'As jusque là.
Basse, Brandon Brown pour les deux titres. Et Robert J.J. Johnson à la basse aussi. Saxophone, Jacob Sesney. Trombone, Lassim Richards. Et moi-même à la trompette. Et à la voix.
Je les connais tous.
Et Desi Diloro aussi au cœur dans la chanson Everybody.
Et du coup, il n'y a pas de. Donc, tu fais des sessions à la fois en France, aux États-Unis, et tu arrives à avoir la même couleur. Il n'y a pas trop une rupture trop franche entre.
Tu es divisé entre recording, mixage, etc. Ou il y avait des morceaux vraiment faits intégralement.
Non, en fait,
le mix, il est.
Le mix, c'est tout a été fait.
Tout a été fait aux États-Unis, ouais.
Par Scott Campbell. Mais en fait, vu que j'essaie de garder, j'ai voulu garder une direction artistique par rapport à l'album. Comme encore une fois, je dis dans les deux pays, il y a des musiciens ultra talentueux. En fait, le truc s'est fait tout seul et
ça sonne bien des deux côtés.
Des deux côtés, ouais. Je suis ultra satisfait.
Par exemple, s'il y a un morceau qui s'appelle Sunset on the Beach, celui-là, tu l'enregistres pas à Maison Alphand, j'espère.
Détrompe-toi. Il a été enregistré à Maison Alphand.
Fameux
sunset de Maison Alphand.
Évidemment, il est incroyable.
En regardant la 4,
on se l'écoute alors. On se projette tous à Maison Alphand.
Allez, let's go.
On y est,
avec
les gens, voilà. Tu nous fais l'intro vocale de Maison Alphand?
Ah ben là, le poulailler à droite, le café de la mairie, l'église.
Vincent Bidal au piano.
Qui était au poulailler quand il a joué avec ça.
Ça donne une autre couleur au RERD. Hein.
Les heures de pointe.
Ouais. Direction Juvisy. Ah, super cool. Donc en fait.
Celui-là, ça a été enregistré.
Ça, c'est en France.
Voilà.
Ok. Tu vois, on croirait pas.
Et Rebirth, ça a été enregistré aux États-Unis.
Ok.
Et t'as cité Everybody, et je veux bien qu'on l'écoute un extrait aussi rapide. J'aime bien ce morceau, pareil, il est très funky. Et tu parlais d'influence de Parliament, enfin que tu écoutais Parliament. J'ai trouvé qu'il y avait un délire un peu P-Funk dans Everybody.
Ah oui. En effet.
Ouais.
T'as vu un petit côté comme ça?
Ouais. Bon, c'est de, tout ça, c'est sur Rebirth. Allez écouter l'album. Il est très cool. En attendant le prochain.
Oui. Incessamment. Le prochain qui arrive incessamment sous peu.
Absolument. Dans les prochaines semaines, mois, un truc comme ça.
Exactement.
Et le prochain album, c'est le même concept, t'enregistres France-États-Unis.
Alors, le prochain album qui s'appelle If Everything Is Written a été entièrement enregistré chez toi à Maison Alfort.
Ah, voilà.
Mais pas tout. Ah. Les trompettes et mes voix ont été enregistrées en Martinique.
Ah, ok. Eh oui.
Tu peux rendre hommage à mes racines. Donc,
alors, bien sûr.
Mais tout a été, l'album a été enregistré à Maison Alfort, chez Pierrot, Studio Soul, Drum Service pour les amateurs et les habitués.
Bah, oui, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais par exemple, on le trouve sur Rebirth avec l'intro et la conclusion qui s'appelle Madinina.
Ah, bah oui.
On disait que tu viens du Havre, mais tu es originaire de Martinique.
Exactement.
Ça nous permet justement de nous poser cette question. Comment tu, quand il a fallu composer et déterminer qui tu serais, entre guillemets, comme artiste, Ludovic Louis en solo, ça a été quoi le travail, la réflexion parce que t'as dit que t'es un mec qui aime plein de trucs, sauf qu'en tant qu'artiste, tu peux pas te permettre de trop t'éparpiller non plus. Tu peux essayer de faire transpirer cette diversité en toi, mais il faut quand même avoir une DA, une direction artistique, savoir où tu veux aller un minimum, tu vois, pour pas perdre des gens. C'est eu un vrai travail entre guillemets autour de tout ça.
Non. Non, parce que en fait pour ce premier album, j'avais envie d'être moi-même, c'est-à-dire que voilà toutes mes influences, j'avais envie de les retranscrire, parce que tu arrives en tant qu'artiste solo, les gens ne te connaissent pas, savent pas qui tu es, éventuellement ce que tu as fait. Et en fait, moi dans cet album-là, j'avais vraiment envie de que toutes mes influences artistiques et musicales se ressentent dans cet album, parce que je suis autant jazz qu'autant funk, que soul, que musique caribéenne, que rock, que hip-hop, que je suis tout ça en fait. Et j'avais envie dans cet album-là de donner que les gens me découvrent à travers ça en fait. Et je pense que ce qui était aussi important, c'est de se dire peut-être que toi, tu vas trouver un morceau qui va te correspondre. Peut-être que toi, tu vas trouver un morceau qui va te correspondre. Que les gens vont trouver chacun un morceau qui va leur correspondre. Et si les gens trouvent parmi cet album un morceau ou un son qui leur parle, moi, je suis content, quoi. Parce que j'avais pas envie non plus de me mettre dans une box, parce que j'aime pas trop ça en fait. J'aime pas trop ça parce que après je comprends, c'est ça fait partie du truc.
Faut être dans
une boîte, mais moi j'ai pas envie d'être dans une boîte. J'ai envie d'être moi-même j'ai surtout envie de partager avec les gens qui viennent écouter, que ce soit l'album ou sur scène, de partager un moment de communion avec eux et qu'on passe un chouette moment et qu'on s'éclate tous ensemble. Donc c'est surtout ça que j'adore le partage avec les gens, et j'essaie de leur transmettre dans ma musique.
Et en solo, du coup, ça se passe comment au niveau de... T'es signé sur un label ou c'est de l'auto?
Non, d'ailleurs, si, il y a des labels qui sont intéressés. Voilà. Hein.
Donc là, t'es en auto...
Autoprod de A à Z. Je fais tout moi-même. Je suis aussi accompagné d'une... Voilà, j'ai d'une équipe, Kidam Agency, mais aussi un tourneur In Vivo, donc... L'album c'est autoproduction totale, tout sur fond propre et
d'accord.
Et voilà quoi, c'est
il faut bien que ça serve les tournées avec Lenny Kravitz.
Tu te demandes à un moment donné si t'es pas en train de jouer au Monopoly, mais je me plains pas, parce que c'est important pour moi de faire ma musique et
Ah bah carrément. Ouais.
Mais donc, s'il y a des labels qui sont intéressés, je sais pas où ça.
Tu peux regarder celle-là, et voilà, c'est la tienne.
Demandez les contacts, il va vous les donner.
Je pense que ce sera ma dernière question. Après, Daz, tu me diras si toi t'en as encore de ton côté. Et pas des moindres d'ailleurs, je pense. Enfin, elle m'interroge. Mm-hmm. On l'a entendu, tu fais de la musique principalement instrumentale.
Oui.
Et de la trompette en particulier.
Mm-hmm.
Comment on arrive à en faire un instrument lead, à faire en sorte que ce soit pas chiant, que ça intéresse les gens. Enfin, tu vois, c'est
T'as la musique instrumentale, déjà, c'est pas évident.
Est-ce qu'il y a des instruments plutôt de support et d'autres?
Et puis, plus spécifiquement, la trompette, tu vois, tout un album juste de trompette, ça peut effrayer certaines personnes. Comment on arrive à maintenir l'intérêt?
La trompette, c'est sexy.
C'est vrai.
La trompette, c'est sexy, c'est vrai. Moi, je
moins que le saxo, quand même.
Pendant un temps, c'était une époque, c'était du sax à tout va dans tous les trucs. Et maintenant c'est la trompette. Donc on va essayer Non mais blague à part, je encore une fois, moi j'essaie de faire de la musique pour qui va essayer de toucher le plus de monde possible. J'essaie de pas de faire des trucs compliqués aussi, parce que c'est pas moi, je suis pas quelqu'un qui aime les choses trop complexes, mais j'essaie, hein. J'essaie de donner de l'intérêt aux gens. J'essaie de faire en sorte que ce soit accessible aussi à beaucoup de gens, et essayer de pas de rendre le truc trop compliqué, où les gens vont se dire oh là là, la trompette, la fanfare. Non, la trompette, c'est pas que de la fanfare. C'est pas, il y a des gens qui ont donné des très 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 belles lettres de noblesse. J'en ai cité deux tout à l'heure, Miles Davis, Roy Hargrove, mais il y en a tout plein d'autres. Peut-être aussi on peut citer Chet Baker, si on parle entre autres de gens qui ont donné des belles lettres à la trompette. Donc c'est pas chiant, en fait. C'est encore une fois, je pense que tout le monde peut trouver son intérêt dans la musique. Et encore une fois, moi si les gens, si chaque personne trouve un titre dans un de mes albums qui leur plaît, qui leur touche, qui leur font du bien, et moi, je suis plus heureux des gars, quoi.
Allez, quand même, pour terminer,
ouais,
on s'écoute l'extrait le plus récent, enfin le single qui sera sur le prochain album.
Exactement.
Ça s'appelle Give Me Some Loving.
Exactement, qui est sorti le 14 février, jour de la Saint-Valentin.
Waouh, là, on reconnaît les influences antillaises.
Et il l'a dit, la trompette, c'est sexy.
Le trait de
l'over. La trompette, c'est sexy. Ah,
c'est le côté Martinique, ça.
Non, c'est...
On connaît.
Je balance un big up à mon poteau Jérémy Richet, il saura pourquoi. L'amour, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Ne serait-ce qu'un sourire, pour moi, c'est de l'amour, c'est de donner de l'amour à quelqu'un. Tu vois, tu croises des gens, un sourire, ça fait toujours plaisir. Tu vois, c'est des.
Ouais, on s'attend quand même à ce qu'il y ait un truc un peu chelou derrière.
Non.
Mais ça, c'est le côté parisien.
C'est le côté maison alpha.
Quand quelqu'un de sourit dans le RER, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe?
Mais tu vois, non, quand j'y parle de ça, je peux parler. Tu vois, tu croises des gens, je parle de l'amour sur toutes ses formes. Hein, c'est pas seulement forcément du câlin, du machin. C'est tu donnes du plaisir aux gens. Et on attend tous à ce que les gens on se donne de la force avec ça. Et je trouve que c'était un beau titre à sortir ce jour-là, jour de la Saint-Valentin, parce que on en a tous besoin de l'amour.
Oh, c'est beau.
Allez, give me some love.
Hit it.
J'avais une question.
La tête bouge, la table bouge aussi, la base à laquelle nous sommes. C'est bon signe.
J'avais une question. Est-ce que tu as une seule trompette, ou est-ce que t'es comme Prince, il avait des guitares en plastique, des guitares en bois, des guitares en métal, des guitares en... Est-ce que t'as une trompette genre qui a un son spécifique?
J'en ai plusieurs. J'ai une trompette qui a un effet, quand tu l'entends, c'est vachement plus brillant, qui perce vachement dans les aigus, ce qu'on appelle les aigus, c'est les notes en haut, elle est très percutante, c'est plus une trompette de section, c'est-à-dire de section trompette, trombone, sax, ou vraiment, c'est vraiment.
Bon, dans le mix, tu ressors, quoi.
Tu ressors. J'ai une trompette avec un son un peu plus rond aussi. J'en ai quelques-unes. J'ai ce qu'on appelle un bugle, qui est une espèce de grosse trompette avec un gros pavillon, avec un son un peu plus rond, un peu plus large. J'ai cornet, j'en ai un paquet, quoi.
Et quand tu te promènes avec ton setup portable pour les hôtels, t'as laquelle ?
J'ai deux trompettes au cas où qu'il y a un problème sur une. Toujours. C'est vrai. Ah ouais. Parce que histoire vraie, ça m'est arrivé. Hein.
Ah ouais ?
Ça m'est arrivé. Je viens pour jouer à l'époque. Je me rappelle de. Il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs à la pre-release party de cet album qui va arriver au pop-up du label, j'arrive et je fais les balances et je rigole avec mon clavier Nicolas Vella, je lui dis tu vois habituellement les pistons des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Et pendant que je dis ça, je sens que les pistons grippent un peu, tu vois. C'est bon, c'est pas grave, je vais prendre de l'huile, machin. Et là, j'arrive et je me rends compte que j'ai pas d'huile dans ma boîte de trompette. Et là, je suis obligé d'appeler un de mes meilleurs amis, Joey Omissile, saxophoniste. Faut que tu viennes tout de suite, je suis en galère, je joue dans moins d'une heure, j'ai pas de truc. Et donc, il m'a dépanné de l'huile. Mais si j'avais eu ma deuxième trompette en backup, je switchais de trompette et c'était pas grave. C'est pour ça que je me balade toujours avec deux trompettes, parce que quand t'es en tournée et qu'il arrive par exemple, que la trompette elle tombe, malheureusement, le pavillon est ivrillé, faut que tu puisses continuer le truc, donc faut que t'en aies une en spare.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas ça reste un instrument.
J'ai un sac qui est large de ça à peu près et haut de ça avec deux trompettes, un bugle à l'intérieur.
D'accord.
Je voudrais juste faire un shout-out pour les musiciens qui ont joué sur ce titre-là, qui ont joué sur le deuxième album. Il y a Nicolas Vella qui est à l'orgue et au Rhodes. Au guitare, il y a Ralph Lavital et Anthony Jambon. À la batterie, c'est Johan Danier. Et à la basse, c'est Zizou Sadki. Et ma pomme à la trompette et au chant.
Et ben on les salue tous et on les félicite. De toute façon, tout le monde va pouvoir découvrir ça bientôt.
Mais ouais.
Il y a une date qu'on a le droit d'évoquer ou
pas pour le moment, mais ça arrive. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça arrive très, 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 très bientôt.
Ok. Est-ce que ça sera dispo pour la journée internationale des droits de la femme pour rester dans une logique un peu romantique et romanesque?
C'est bientôt, non?
C'est vendredi là.
Ce sera plus tard.
Ok. D'accord.
Bon, en tout cas, ça s'appellera If Everything Is Written. Ça, on le sait.
Exactement.
Il suffit de rester à l'affût. Ludovic Louis, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous
d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On a quand même une tradition dans cette émission, c'est de terminer avec les recommandations. Oh, et là, je te prends à nouveau de court parce que j'aurais dû t'en parler avant.
Ok.
Mais on va commencer avec Daz. On termine toujours avec un truc qu'on a envie de faire découvrir à nos auditeurs, un truc musical, un morceau, soit un de tes classiques, un truc que t'adores, un truc que t'as découvert récemment, que t'as envie de faire écouter aux gens.
Ok.
Daz, t'as une idée, toi, de ton morceau? Dit-il en cherchant sur son Spotify. Moi, sinon, je peux y aller. J'ai déjà mon morceau.
Ah bah vas-y. Alors,
je commence. Ok. Bon, comme ça manque un peu de rock quand même dans cette émission, il faut qu'on ait des invités rock.
C'est vrai.
Moi, je me rattrape parfois avec les recommandations. C'est pas un morceau récent puisque ça date de 2005. C'est un groupe qui s'appelle AS Dragon. Je sais pas si vous connaissez AS Dragon. C'est français. Mm-hmm. Ils ont notamment accompagné, alors un truc complètement improbable, à l'époque où il était encore à peu près fréquentable, Michel Houellebecq. C'était le backing band de Michel Houellebecq.
Okay.
qui a fait plusieurs albums de musique d'ailleurs. Ensuite, c'est devenu le backing band de Bertrand Burgala.
Bertrand Cantat, j'étais en train de couper, quoi.
Les mecs cherchent le problème. Non, Bertrand Burgala.
Ok.
Et bref, c'est plutôt un bon groupe que j'aime bien. Et ils ont fait plein de choses après en solo, dont cet album qui s'appelle Va chercher la police en 2005. Le morceau s'appelle Plastic Hooker.
Oh bah, let's go. Ok.
Et j'adore le riff. Je le trouve ultra prenant. C'est parti.
Partez comme Sultan of Swing ton truc là. sympa. Voilà.
Hein. En fait, j'adore ce côté un peu brut. Tu sais, le son, c'est pas ultra produit et tout. C'est direct.
Ouais, il y a quand même des trucs électroniques qui virevoltent un peu.
Ouais, bien
à
sûr,
gauche,
mais c'est, la production, tu sais, est pas chiadée, propre, etc. Mmh. Tu vois, ça garde une énergie rock.
Ah, les guitares,
que, ouais.
Dry et tout.
Que j'aime beaucoup. Et globalement, c'est un bon groupe et l'album est très cool. Voilà.
Yes.
Ok.
Daz, est-ce que tu as ta
Oui, j'ai. Alors, je m'étais dit, parce que je suis en train de diguer dans ma playlist, tu sais, dès que j'entends des trucs, je les fous dans ma playlist assemblée pour pouvoir après les découper salement. Et je suis tombé sur un morceau de Patrice Rochon qui était dans la playlist. Alors, Patrice Rochon, multi-samplé de partout, mais voilà, il y a un morceau qui s'appelle Didn't You Know, qui est
Tu l'as déjà joué?
Du velours, vraiment.
Mm-hmm.
Didn't You Know.
C'est le sucre d'Azesque.
Ah bah là, ah ouais, non mais c'est chambé. Évidemment, donc samplé par les Hieroglyphics sur un morceau qui s'appelait You Never Knew, mais ils ont pas pris ce que moi j'aurais pris. Donc il y a 5 minutes, tout est samplable. En gros, donc voilà.
Ah, c'est beau.
Ouais, franchement, c'est Patrice Rochon, moi je turbo kiff hein, depuis très longtemps pour cet artiste.
Tu m'as mis dans un mood là. Et là j'ai envie de te dire Michael Jackson, Lady in My Life.
Ah, voilà. Du Michael Jackson. Eh ben, je pense que c'est la première fois
dans cette émission.
Dans cette émission du Michael Jackson.
C'est vrai?
Quel morceau tu as dit?
Lady in My Life.
Allez, c'est parti.
Tu m'as fait penser à ça au début, tu vois.
Ah, bah oui! LL Cool J, Boyz II Men. Hey Lover.
C'est bien sur Thriller, pardon.
There'll be no darkness tonight. Lady, your love will shine. Lighting the light. Just put your trust in my heart.
To raise your time I won't steal away. So listen to my heart, lay your body close to mine. Let me fill you with my dreams. I can make you feel alright. And baby, through the years, gonna love you more each day. So I promise you tonight that you will always. La fin là, le hook de fin là, quand ça part en ad-lib là, c'est juste une tuerie quoi.
Et alors ces salauds ils m'ont eu parce que normalement c'est un peu trop sucré pour moi et en fait la prod s'ouvre complètement à un moment, tu sais, il y a un travail de production et qui tu rentres dedans et c'est bon, t'es parti.
Quincy.
C'est Jones. Monsieur
Quincy Jones, monsieur CFR.
Alors ce qui est marrant c'est que c'est le dernier morceau de Thriller du coup et donc il y a des morceaux qui sont à 1 milliard.
Non, mais j'avais jamais vu ces rangées de chiffres sur Spotify. Pourtant j'y vais quasiment tous les jours.
Et celui-là il a 57 millions. Alors c'est énorme mais c'est beaucoup moins.
Par rapport au milliard de Beat It et Billie Jean. Ouais.
1,5 milliard pour Billie Jean et 57 millions pour ce titre-là. Comme quoi il y a encore des 57 millions. Il y a encore des titres pas trop connus
underground.
Il y a encore des petits morceaux
il
comme
faire
ça.
Une carrière.
À
Allez, on remercie tout le monde.
Évidemment.
C'est la bouclette, bien entendu.
La bouclette.
Iris, Sam, Flavien.
Attends, oui. Dédicace.
Oui.
Iris, tu devrais lâcher la flûte traversière et te mettre à la trompette, ça a l'air quand même beaucoup plus d'avenir. voilà, je le dis. Hein, on est d'accord. Hein.
Pas de problème. Elle va se mettre à la trompette dès ce soir.
Voilà.
Merci évidemment aussi à François qui
lance
cette émission. Daz attend un remerciement de ta part pour son merci.
Bah oui, parce que François, nous on remercie François à chaque fois et il nous remercie jamais. Quand même incroyable, François. Un petit gracias de Barcelone.
Gracias, les amis.
Bref, merci évidemment aussi à Thoman, grâce à qui nous faisons cette émission. Regarde comme il est corporate, Ludo. De lui-même, il a levé aussi.
Ah oui.
Tout à l'heure, on lève les mugs, Thoman, comme ça.
Vu que Thoman va m'envoyer un chèque cadeau.
Ah bon?
Allez.
On est pas au courant, mais.
On va en parler.
On va faire, mais bon.
On va en parler.
Et puis, merci évidemment à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. N'hésitez pas à commenter, à mettre une petite étoile, un petit pouce, tout ce que vous voulez à soutenir cette émission. On se retrouve évidemment, pas mercredi de la semaine prochaine, mais le mercredi d'après, un mercredi sur deux, dans 15 jours. Ciao.